Les musiques en fond sonore utilisées dans ce livre audio sont tirées du site de musique libre de droit, www.auboutdufil.com. Les élucubrations de Coco Joyce. Parodie. Préface de Cady Beaumont, auteur dramaturge.
Il y a plus d'une décennie, à l'espace gastronomique et culturel La Cartier, mon chemin croise celui de José Manuel Laeza Ejapa.
José Manuel Laeza Ejapa.
Cet amoureux des arts plus connu sous le pseudonyme de Coco Joyce. Toutes les fois que son nom est évoqué, ce sont les mots liés à la communication, au spectacle et à la fête qui me viennent à l'esprit. En janvier 2015, il ajoute une nouvelle corde à son arc avec la sortie de son premier livre, Cupidon ou l'amour en flèche. Quand Coco Joyce me fait l'honneur de me confier la préface de sa troisième œuvre littéraire intitulée Les élucubrations de Coco Joyce, je suis loin d'imaginer un si beau voyage dans l'univers palpitant de mon enfance parce qu'à la lecture des toutes premières pages, l'adulte que je suis s'écrit. Qu'est-ce qu'il a fumé ce mec? Mais au fil des pages, tout mon être se liquéfie littéralement pour se fondre dans cette aventure grandiose et merveilleuse des années club des petits. L'enfant en moi se met alors à gambader, rire aux éclats, s'effrayer par moments, et même bouder en pensant comme le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
Les grandes personnes sont bien étranges. Elles perdent ce petit grain de folie qui les poussait à imaginer et créer lorsqu'elles étaient enfants.
Heureusement, Coco Joyce, lui, n'est pas de ces adultes-là. La réalité des adultes, nous la vivons au quotidien. Pourquoi s'interdire un grand bond de temps en temps dans le monde fantastique de l'enfance quand on sait, et la science le dit, que la créativité et l'imagination sont bonnes pour la santé? Rédigée dans un style sobre, facile à lire, cette œuvre nous invite à rencontrer l'enfant en nous. Cet enfant qui renaît et comprend les moments magiques. Les élucubrations de Coco Joyce est aussi une excursion culturelle qui plonge le lecteur dans un sommeil éveillé, rempli de rêves colorés offrant à boire et à manger pour tous. Visite touristique, humour à l'ivoirienne, espoir de paix et de réconciliation, soif d'amour et de partage, abondance, etc. Cette œuvre parodique se présente comme une prière d'enfant susurrée.
Cher Dieu, s'il te plaît, fais que mes héros et moi on ne grandisse jamais car les grandes personnes sont des briseuses de beaux rêves.
Les élucubrations de Coco Joyce est certainement l'œuvre qui, comme la Madeleine de Proust, nous montre que notre enfance nous aura marqués à jamais.
Chapitre 1. La journée s'annonçait plutôt longue et difficile. Il n'était que 7h du matin et le soleil agressait déjà la ville avec ses rayons. Pourtant à la radio, l'animateur annonçait un temps couvert avec de fortes pluies. Depuis la fenêtre de mon appartement, je jetai un coup d'œil vers le ciel, mais je ne vis rien qui présageait un temps pareil. Mensonge, me dis-je. Ils ne disent jamais la vérité, ces gens de la météo. C'était tant mieux d'ailleurs. Avec tous les rendez-vous qui m'attendaient, franchement je n'avais pas besoin d'une pluie pour me compliquer les choses. Après un copieux petit déjeuner, je m'engouffrais dans la salle de bain, avec de la paresse dans mes mouvements. L'expression de mon visage dans le miroir n'avait rien de plaisant. J'aurais tout donné pour m'offrir une belle grasse matinée. Mais je ne pouvais pas. Il fallait que je me lave, que je m'habille et que je sorte pour aller chercher de quoi assurer mon pain quotidien. C'est ça aussi la vie d'un homme. Se battre pour s'occuper de soi-même et des siens sans dépendre de quelqu'un. Au bas de mon immeuble, tous les commerces étaient déjà ouverts, et la rue grouillait d'un monde qui allait dans tous les sens. Je levai encore les yeux vers le ciel pour demander au Tout-Puissant de m'accompagner et de guider mes pas. Le soleil semblait s'être adouci. Il faisait moins chaud, et un vent frais et léger circulait de façon subtile dans les airs. Je ne sais pas si c'était pour nous prévenir d'un changement de temps brutal pour donner finalement raison à la météo, mais en tout cas il faisait beau, et intérieurement, je me dis que c'était une belle journée pour faire de belles rencontres. Tout se passa très bien jusqu'en fin d'après-midi, où j'ai pu enfin mettre la main sur un client très important qui me devait un peu d'argent, et qui avait bien voulu s'acquitter de sa dette. C'est tellement rare de nos jours. Je ne m'y attendais pas et j'étais tellement content que je sentis le besoin d'arroser ça. Je me rendis donc aux 24 heures chrono. Chez Tonton Jean, au plateau d'Ocuy. Il avait donné un souffle nouveau à son bar et j'aimais beaucoup l'endroit pour sa tranquillité, sa simplicité et sa convivialité. Il reflétait toute la personnalité du propriétaire. Il n'y avait pas encore de monde. Je m'assis au comptoir, et une jeune serveuse vint d'abord me gratifier d'un sourire avant de prendre ma commande. Peu à peu, le bar se mit à se remplir. Beaucoup passaient par là après le boulot pour prendre un pot avant de rentrer chez eux. Bintou, la jeune fille qui m'avait servi me tenait gentiment compagnie. J'aimais beaucoup son sourire et son ouverture d'esprit. En plus, elle avait un corps de rêve. J'étais sur le point de développer un jeu de séduction lorsque mon attention fut attirée par quelqu'un qui venait de pousser les portes battantes du bar. C'était un vieil homme. Il était voûté, cheveux blancs et visage ridé. Une canne servait de soutien à ses pas millimétrés. Quand il ouvrit la bouche pour demander un verre de whisky, je vis qu'il lui restait à peine deux ou trois dents. C'est surtout son accoutrement qui m'intrigua. Il était habillé comme un cow-boy. Je n'arrivais pas à me l'expliquer, mais j'avais la certitude de connaître ce personnage. J'avais beau fouiller dans ma tête, je n'arrivais pas à trouver la moindre piste. Puis, aidé par Tonton Jean qui venait d'arriver, le voile tomba. Je reconnus le vieillard. J'étais stupéfait. Comment était-ce possible? Lui, ici, dans ce bar à moins de 3 mètres de moi? Je le regardais encore et encore pour m'en assurer. C'était bien lui. C'était Lucky Luke.
Je déteste qu'on me dévisage comme ça, Minus.
Me dit-il de sa voix chevrotante, sans même lever la tête vers moi. Je m'empressai de m'excuser, mais la surprise était trop grande pour moi et je le lui fis savoir. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Dis-je la voix presque nouée par l'émotion.
Et pourquoi ça?
Me demanda-t-il toujours en me privant de son regard. Vous êtes de ceux qui ont bercé mon enfance, monsieur. Il se tourna enfin vers moi et me demanda.
Comment t'appelles-tu, jeune homme?
Coco Joyce, monsieur. Je m'appelle Coco Joyce. Répondis-je en descendant de ma chaise haute, et la main tendue vers lui. Il mit du temps avant de la prendre, mais il la prit, avec un petit sourire en plus. J'étais fou de joie. Je voyais Lucky Luke pour de vrai, et je lui serrai la main. Je voulus faire un selfie séance tenante, mais zut, mes deux téléphones étaient déchargés. J'oubliais mes projets avec Bintou et je me mis à causer avec cette légende du Far West, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il me conta ses aventures de Poor Lonesome Cowboy, du fil à retordre que lui avait donné Billy the Kid et Calamity Jane. Je sentais beaucoup de nostalgie dans sa voix. Cette époque où il avait encore toute sa jeunesse, et toute sa vigueur lui manquait beaucoup. Il aimait son travail de justicier et me répétait sans cesse qu'il n'était pas prêt à prendre sa retraite. Je faillis lui dire que vu son âge, il le devrait. Mais je m'abstins d'une telle suggestion. Il allait peut-être mal prendre ça. Pour lui, il avait toujours la force de traquer les méchants et de les mettre à la disposition de la justice. Entre deux gorgées de whisky, il me confia à voix basse la raison de sa présence aux 24 heures chrono. La sempiternelle chasse aux frères Dalton. Ces quatre délinquants notoires se trouvaient dans le quartier et se préparaient à attaquer des gbakas sur l'axe plateau d'Okuyajame. Ils venaient de s'évader de la maca où ils étaient pourtant sous haute surveillance. Depuis le bâtiment C de la prison, Joe Dalton avait réussi à concocter un plan pour se sauver lui et ses frères. J'étais étonné. Malgré l'âge, ces bandits n'avaient fait aucun effort pour se ranger.
Quand on a ça dans le sang, on ne peut pas se ranger, mon petit.
Dit Lucky Luke qui semblait avoir lu dans mes pensées. Nous avions passé beaucoup de temps à bavarder. Moi qui étais venu boire juste une bière pour décompresser, j'en avais 5 à mon actif maintenant. Je ne voyais pas le temps passer, tant le tête-à-tête avec Lucky Luke était intéressant. Vers 21h, il avala sa dernière gorgée, et souleva sa canne pour rentrer chez lui à Yopougon. Il fourra deux doigts dans sa bouche et siffla fort. Tout le bar se tourna vers nous. Il se frappa la tête en disant « Zut ! J'ai oublié que mon vieil ami Jolly Jumper n'a plus la force de me porter. » Il parlait de son cheval. Je le raccompagnai jusqu'à sa voiture et il me donna son numéro de téléphone en me priant de l'appeler, si jamais j'avais des nouvelles des frères Dalton. Il me promit aussi de m'inviter dans le plus grand saloon de Yopougon. C'est comme ça qu'il appelait les maquis et les bars. La nuit était encore jeune et je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Je décidai alors de vadrouiller un peu, et c'est comme ça que je me retrouvai à la Riviera 2, dans une discothèque où je fis encore une rencontre insolite. Le portier de la boîte n'était autre que l'incroyable Hulk. Lui, je n'eus pas trop de mal à le reconnaître, même si l'âge lui avait fait perdre un peu de muscle. C'est vrai qu'il n'était plus aussi vert qu'avant, mais il était le même. Je le saluai mais sans lui serrer la main. Je ne tenais pas à ce qu'il réduise mes phalanges en morceaux. Il n'y avait pas grand monde dans la boîte. Je bus juste une boisson énergétique, et sortis pour échanger avec cet autre héros de mes tendres années. C'était un peu difficile puisqu'il ne parlait pas. Mais il s'exprimait très bien avec des gestes dont la lecture n'était pas vraiment compliquée. Je compris qu'il était passé par des moments difficiles après le succès qu'il avait connu. Il avait parcouru le monde entier, avait fait la guerre du Vietnam, avait sauvé beaucoup de vies lors des attentats du 11 septembre du tristement célèbre Ben Laden. Il avait été appelé comme mercenaire pendant la guerre du Congo qui avait vu le départ du grand Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. Il avait même fait équipe avec notre bras Darius National avec qui il avait sillonné pratiquement toutes les écoles primaires du pays, pour égayer et impressionner les enfants. Visiblement, c'était une belle époque pour lui. Et puis petit à petit, il avait été rangé au placard vu qu'il avait pris de l'âge. C'est dans ses nombreux voyages qu'il avait découvert Abidjan, et il était tombé tout de suite sous le charme de cette ville. Il avait donc décidé de s'y installer définitivement avec sa femme et ses enfants dont il parlait avec beaucoup de fierté dans les gestes. À 9 ans, son premier fils, Hulk Junior, avait réussi à soulever un bus de la Sotra. C'était un homme maintenant, et il avait acquis le respect de tous les Igéis de la ville qu'il appelait vieux père parce qu'il les avait tous frappés. J'étais un peu peiné pour Hulk. Une légende planétaire qui avait tout vu, et qui faisait ses vieux os comme videur d'une boîte de nuit. Franchement, j'aurais préféré le voir plutôt comme le boss de cette discothèque. Mais bon, si c'est ce que Dieu avait prévu pour lui, on n'y pouvait rien. En regagnant mon appartement un peu plus tard dans la nuit, j'étais heureux. Le matin, quand je sortais de chez moi et que je disais que c'était une belle journée pour faire de belles rencontres, je ne croyais pas si bien dire. J'avais croisé le chemin de deux monuments du club des petits des années 80. Deux semaines passèrent avant que j'aie la possibilité de revoir Lucky Luke. Je l'avais appelé plusieurs fois, mais c'était vraiment difficile de l'attraper. Quand je pus enfin l'avoir au téléphone, il me donna rendez-vous à Angrais, dans le salon de son ami. Enfin, dans le bar de son ami vers le glacier des Oscars. Je faillis faire un arrêt cardiaque quand je vis la personne avec qui il était. C'était Pinocchio. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises parce que dans les 5 minutes qui suivirent mon arrivée, nous fûmes rejoints par Tom Sawyer. J'avais la bouche ouverte en le saluant. Je me demandais si je ne rêvais pas. Ils se mirent à rire en voyant mon étonnement.
« Tu devrais venir à notre réunion annuelle samedi prochain. Tu auras encore plus de surprises. »
dit Lucky Luke.
« Oui. »
renchérit Tom Sawyer.
« Tu retrouveras beaucoup de stars de ton enfance. »
Pinocchio, qui ne parlait pas beaucoup, approuva l'invitation. Il m'expliqua que la plupart des anciens du club des petits étaient tous restés en contact, et qu'ils se retrouvaient comme ça chaque année pour échanger et festoyer.
« Le président sortant de notre association sera certainement content de te connaître. »
dit-il.
« Le nouveau aussi d'ailleurs. »
« Ah, parce que vous avez même une association ?» demandai-je.
« Oui bien sûr. »
répondit Tom Sawyer.
« Nous sommes une association légalement constituée, avec un président et un bureau exécutif. Le président actuel c'est un teint que tu dois sûrement connaître. » Et il est à la fin de son mandat. À la réunion de samedi, nous allons élire un nouveau président et je suis un des 6 candidats.
Tout devint clair dans ma tête. Je compris la raison de cette rencontre dans ce bar. Tom Sawyer cherchait le soutien de Lucky Luke et de Pinocchio pour gagner cette élection. Ils avaient choisi la salle des fêtes de l'hôtel Ivoire pour cet événement. J'étais loin de m'imaginer l'existence de cette association. J'attendis ce jour avec impatience. Quand il arriva enfin, j'étais pratiquement le premier sur les lieux. La décoration de la salle était parfaite, et les techniciens du son venaient à peine de finir l'installation du matériel. Moins d'une heure plus tard, tous les invités arrivèrent. Tous les organes de presse du pays étaient présents. De loin, j'aperçus mon ami Rémi Koulibaly, un éminent journaliste qui ne manquait jamais les grands rendez-vous comme celui-là. Je lui fis signe de la main et il se fraya un chemin pour prendre place à côté de moi. Quand je lui fis part de mon étonnement le jour où j'ai rencontré Lucky Luke et les deux autres, il se mit à rire. Lui, il les avait déjà croisés plusieurs fois et il avait même interviewé Tom Sawyer l'année d'avant. Pendant qu'il me parlait, mon regard se figea. Je venais de voir Spectroman qui faisait son entrée. Derrière lui, toutes les stars du club des petits entraient au fur et à mesure. Il y avait Candy, Hulk, Anthony, Archibald, Alistair, Kimbo et sa petite sœur Kita, Lucky Luke, Tom Sawyer, Pinocchio, Maya l'abeille, Tao Tao, Alice qui avait quitté définitivement son pays des merveilles, Booba, Nils Holgersson, Zest et son ami Yamatele, Winnie l'ourson, la famille Barbapapa, Mowgli, Superman, Tintin et Milou son chien, Tarzan qui avait fini par épouser Jane, le grand Schtroumpf accompagné du Schtroumpf à lunettes et de la Schtroumpfette, Goldorak et Actarus, Tom et Jerry, D'Artagnan et enfin, Arthur Herbert Fonzarelli, alias Fonzi. Tout le monde applaudissait au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Ma joie était à son comble. En une fraction de seconde, j'eus l'impression d'avoir 10 ans. J'étais totalement plongé dans cette heureuse enfance qu'il m'arrivait de regretter. Tout ce grâce à qui c'était sûr de me trouver à la maison à 19h30, une trentaine d'années plus tôt, étaient tous là. Devant moi. Rémi me regardait et souriait. J'avais les yeux écarquillés et légèrement mouillés de larmes, tant l'émotion était grande. « Je te comprends mon frère. » dit Rémi. « J'ai réagi comme toi quand j'ai constaté qu'ils étaient encore tous en vie. Je n'arrive pas à y croire. » dis-je en secouant la tête. Il y eut comme un remue-ménage dans le couloir qui mène à la salle. On entendit un chat qui miaulait fort et un homme qui avait un rire trop drôle. Leurs pas et leurs voix se rapprochaient jusqu'à ce qu'ils fassent leur apparition. Tout le monde se leva pour les acclamer. C'était Gargamel et Azrael. Le maître de cérémonie prit la parole et annonça le programme. Il y avait au menu l'élection du nouveau président, et juste après, un cocktail. La fête commença par la prestation d'une série d'artistes tout aussi anciens comme le groupe SIB, Abidjan City Breakers, Lou Suzanne Nazou, Jacques Traboulsi, Baïs Pinto, Ngale Jojo et Paul Wassaba. Puis, le MC reprit le micro et donna les noms des 6 candidats qui devaient s'affronter. Il y avait Gargamel, le grand Schtroumpf, Yamatele, Kimbo, Tarzan et Tom Sawyer. Chacun des candidats eut droit à 15 minutes pour présenter son programme et draguer les électeurs. 2 heures plus tard, l'on annonça la victoire de Kimbo. C'est lui qui allait désormais piloter la destinée de l'association durant 3 ans. Pendant le cocktail, j'étais en train d'échanger avec Actarus et Mowgli qui se plaignaient beaucoup du fait qu'on les avait abandonnés. Ils disaient que quand on était enfant, ils avaient toujours été là pour nous procurer du bonheur et nous distraire. Et maintenant qu'on avait grandi, plus personne ne faisait attention à eux. On les avait balancés dans le compartiment le plus lointain de notre inconscient, comme si on ne voulait plus jamais les revoir. Plus je les écoutais, plus je trouvais qu'ils avaient raison, et plus j'avais des regrets et me sentais ingrat. Ils avaient tous fait partie de notre vie. On s'était fondu en eux au point de les imiter tellement on voulait leur ressembler. Je me souviens encore de cette époque où mon ami et frère Emmanuel Bouhoussou s'était cassé un bras en sautant du premier étage de son immeuble. Il était persuadé qu'il avait les mêmes pouvoirs que Superman. Nous tous d'ailleurs, on avait ce sentiment-là, mais on sautait de la table. Pas du premier étage quand même. Abiyou, quant à lui, voyait des Golgothes partout et imitait très bien Actarus à bord de Goldorak. Je souris encore quand je revois Stéphane Boisbré et Désiré Nieba en train de discuter chaudement parce que l'un se prenait pour Steve Austin et l'autre pour Spectroman. Personne ne voulait se laisser dominer par l'autre. Olivier Guisa, lui, c'était Tarzan tout craché. Il n'arrêtait pas de nous casser les oreilles avec ses... Lucky Luke nous rejoignit et me tira d'affaire en disant qu'il voulait me présenter à Kimbo, le nouveau président. J'étais heureux de le rencontrer enfin. Il n'était pas aussi vieux que les autres. Il approchait la quarantaine et en une fraction de seconde, je me demandais si c'était vraiment lui. Il s'était tchatcho. Son teint était devenu trop clair et trop propre. Comme on le dit à Abidjan, son produit avait réussi. Il me salua chaleureusement et nos échanges tournèrent autour de ses priorités en tant que nouveau président. Il voulait donner plus de popularité à son association et porter à la connaissance de tout le monde que les héros du club des petits vivent encore. Ils avaient été mondialement célèbres et il voulait leur redonner cette gloire qu'ils avaient connue. C'est comme ça que me vint l'idée d'écrire un livre qui allait parler de ce qu'ils deviennent tous, et je lui en fis part. Il trouva la proposition tellement pertinente que séance tenante, il monta sur le podium et prenant le micro, il sollicita l'attention de tout le monde. Il me pria de le rejoindre et annonça le projet à toute la salle. Les applaudissements me firent chaud au cœur. Il était question que je les rencontre tous individuellement pour prélever les informations et Kimbo les pria de me réserver un bon accueil. Un membre de l'ancien bureau se proposa de m'envoyer par email le fichier contenant les noms et les contacts de tous les membres du club des petits. Je commençai mes investigations dès la semaine qui suivit, avec le premier que j'avais rencontré, c'est-à-dire Lucky Luke. Il me reçut chez lui à la maison. Il habitait un bel appartement à Yopougon, juste derrière la pharmacie Bel Air. À la question de savoir comment il avait atterri en Côte d'Ivoire, il répondit spontanément que ce sont les incorrigibles frères Dalton qui l'avaient conduit jusqu'ici. Sa dernière mission lui avait été confiée par son ami Jack Lapoisse qui l'avait supplié d'escorter sa famille jusqu'aux confins de l'Ouest sauvage américain. Un endroit très dangereux. C'était truffé de bandits et il y avait toujours de bonnes chances d'être attaqué par des Indiens, surtout des Sioux, ou la tribu des Pieds Noirs qui avait très mauvaise réputation et qui terrorisait la région. Lucky Luke était conscient des dangers mais il avait accepté la mission et tout s'était bien passé. Il était déjà vieux et il avait décidé qu'après ça, il allait raccrocher. Mais quand on lui avait annoncé que les Dalton s'étaient évadés de la prison de Painful Gulch, il avait compris qu'ils ne raccrocheraient pas de sitôt. Après leur évasion, ils avaient quitté le pays et c'est quelques temps plus tard tout le monde sut qu'ils avaient posé leurs valises à Abidjan. C'était en 2016. Lucky Luke avait donc été dépêché sur place pour les traquer et les ramener sur le sol américain. Il n'avait pas eu beaucoup de mal à les localiser et les arrêter. Mais, au lieu de les renvoyer chez eux, il fut décidé qu'ils allaient purger leur peine à la Maca et Lucky Luke devait rester à Abidjan au cas où. C'est comme ça qu'il s'installa en terre ivoirienne qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Les Dalton avaient fait tous les pénitenciers américains, et ils avaient toujours réussi à s'évader. Les autorités étaient persuadées qu'avec une prison différente, ces bandits de grand chemin allaient avoir beaucoup de mal à se barrer. Mais c'était mal les connaître. Sur les 1207 ans qu'il leur restait à purger, ils avaient passé seulement une année à la Maca et Joe Dalton, le cerveau de la bande, avait pu tromper la sécurité pour se retrouver à nouveau dans la nature avec ses frères. Lucky Luke était à leur trousse, et c'est dans ses investigations que nos chemins se sont croisés un soir aux 24 heures chrono. Pour son âge, il respirait plutôt la grande forme. Néanmoins, il avait perdu certains réflexes à tel point que maintenant, son ombre tirait plus vite que lui. Mais attention, il restait quand même rapide. Errant en plan. Que devient-il ce brave chien, demandai-je.
Il est en bas avec le vigile. Tu ne l'as pas vu en entrant ?
Effectivement, j'avais vu un chien, mais je ne l'avais pas reconnu. À cause de l'âge certainement. Notre entretien était fini. Lucky Luke voulut qu'on aille prendre un pot dans le bar d'en face, mais je ne pouvais pas. Tom Sawyer m'attendait chez lui à Blockos. Une fois au rez-de-chaussée, je vis un chien qui courait en poussant des hurlements. Il était visiblement affolé. Il fuyait un chaton qui ne cherchait qu'à jouer. Je compris que c'était Rentemplan. D'après les indications, Tom Sawyer habitait à deux pas du Maquis le champion. Je n'eus donc aucune peine à trouver sa maison. Il avait sorti une chaise et prenait de l'air devant sa porte en écoutant la radio. Je proposais qu'on échange autour d'un bon vin au champion, ce qu'il accepta volontiers. Je voulais faire d'une pierre deux coups. En plus de l'entretien, je voulais faire un big up à mon ami Georges que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Mais il n'était pas là. Il n'est pas encore arrivé, mais il ne devrait pas tarder, me rassura la serveuse. Quand elle se mit à citer les vins qu'elle avait à nous proposer, je l'arrêtai au niveau du château Mocaillou, un vin raffiné à souhait. Aussi bien dans son attitude sur la table que dans sa manière de mouiller le palais avant d'atteindre la gorge. Il ne s'impose pas. On le sollicite. Excellent choix petit, dit Tom Sawyer. Après avoir apprécié sa première gorgée, il commença son récit sur un ton un peu amer. Il avait été victime de son amour pour Becky, cette jeune fille dont il avait été éperdument amoureux. Il avait 21 ans quand elle avait fini par accepter ses avances, et ils étaient sortis ensemble pendant 4 ans environ. Il était fou d'elle et tout allait bien entre eux jusqu'au jour où, il l'avait surprise dans les bras de Huckleberry, son meilleur ami. Ce jour-là, le monde s'était écroulé pour lui et il avait pleuré toutes les larmes de son corps, surtout qu'il était sur le point de la demander en mariage. Complètement anéanti et déprimé, il avait tenté de se suicider en se pendant à un arbre. Mais les voisins étaient vite intervenus et le pire avait été évité. Il quitta alors les bords du fleuve Mississippi, sentant le besoin d'aller loin. Très loin de cet endroit, et se retrouva sur ceux de la lagune Ébrier. Les premiers mois à Abidjan furent très difficiles pour lui. Il n'arrêtait pas de penser à Becky. Ce changement d'air n'avait pas eu l'effet escompté. Il s'était senti trahi, et ça avait été vraiment dur à supporter. Tellement dur qu'il avait sombré dans l'alcool pour oublier un tant soit peu. Il avait défrayé la chronique à un moment donné à Blockos à cause de ses doses.
« Bailey voulait me tuer »,
se souvint-il avec une pointe d'humour. Il lui était arrivé d'être tellement ivre qu'il oubliait la route de sa maison. Ce qui arrive rarement à un bon soulard. On l'avait retrouvé plusieurs fois dans des caniveaux, et tous les bélédromes de Blockos le chassaient parce qu'il buvait à crédit et il ne payait pas. Ses bordereaux dans les boutiques pouvaient payer le loyer de quelqu'un à la fin du mois. Bref, la vie n'avait pas été très tendre avec lui. Il avait touché le fond et tout allait mal quand un après-midi, dans un moment de rare lucidité, il faisait les 100 pas et passait devant la paroisse Saint-Pierre de Blockos. Il s'était arrêté devant le portail et avait fouiné dans ses souvenirs pour essayer de retrouver la dernière fois qu'il avait mis les pieds dans une église. Il avait aimé l'ambiance reposante et le paysage paisible qui se dégageait de ce lieu saint. Il avait alors décidé d'entrer et de prier un peu, une chose qu'il n'avait pas faite depuis des lustres. C'était vraiment calme à l'intérieur. Il s'était assis sur le premier banc qu'il avait trouvé et avait balayé la salle du regard. Tout à fait devant, sur le côté gauche, un petit groupe de femmes priait à voix basse. En face de lui, à une quinzaine de mètres, une jeune fille était assise seule et priait aussi. Sur le flanc droit, deux hommes en soutane discutaient avec une nonne. Sans s'en rendre compte, Tom Sawyer avait passé près de 2 heures assis là. Il était entré pour prier. Mais il n'avait pas prié. Il avait médité. Son esprit s'était promené et avait visité sa vie de petit garçon turbulent, voyou mais gentil, sa vie de jeune homme fraîchement adulte qui découvrait et apprenait le sens des responsabilités, et enfin sa vie du moment. Une vie dont il n'était pas vraiment fier. Il avait remarqué que l'église s'était vidée et qu'il ne restait plus que lui et la jeune fille. Elle s'était levée à son tour, et avait pris la direction de la sortie. En arrivant à son niveau, elle lui avait lancé un regard doux et profond. Il l'avait trouvée merveilleusement belle. Ce jour avait donné un autre tempo à sa vie. Il avait commencé à passer plus de temps à l'église que dans les maquis, et chaque fois, il avait rencontré la jeune fille du premier jour assise au même endroit, et chaque fois, elle lui avait lancé le même regard. Il était arrivé à se demander si ça n'était pas un ange que Dieu avait dépêché sur terre pour lui. Sinon, comment expliquer qu'elle soit tout le temps là, au même moment que lui? Et puis un jour, en passant à côté de lui comme d'habitude, en plus du regard, elle lui avait adressé un sourire et lui avait dit « Sois béni mon frère ». Et elle était partie sans même attendre qu'il réponde, le laissant bouche bée. Son ami avec qui il était venu lui avait demandé
« Pourquoi tu regardes cette fille comme ça? Elle te plaît ?»«
Je savais que c'était un ange »,
avait-il répondu.
« Quoi? Elle ne s'appelle pas Ange, elle s'appelle Aya. Tu ne la connais pas ?»«
Non, je devrais. » »«
Tu ne connais pas la chanson ?»
Comme je t'aime, Aya, Aya, tu es mon ami, je pense à toi.
Non, non, je ne vois pas.
Ok, laisse tomber.
Quelques jours après, quand il était revenu, il l'avait cherché du regard parce qu'elle n'était pas à sa place habituelle. Et puis, une voix avait résonné juste derrière lui et avait dit.
C'est moi que tu cherches ?
Normalement, l'effet de surprise aurait dû le faire sursauter. Mais la voix était trop douce. Il s'était retourné et pour la première fois, il l'avait vue de plus près. C'était elle. C'était Aya. Elle connaissait sa réputation de soulard, mais elle n'en avait pas tenu compte. Ils avaient commencé à se fréquenter et à devenir chaque jour un peu plus proches. Et l'année qui avait suivi, il s'était dit oui pour la vie dans cette même église. J'étais ému en écoutant ce récit. Tom Sawyer, le gamin qui avait à peu près notre âge et qui avait séduit toute une génération, était devenu un homme. Après avoir effectué une véritable traversée du désert, Dieu lui avait fait la grâce de rencontrer et d'épouser une bonne femme. Aya lui avait donné 2 filles et 3 garçons, et sa vie de débauche ainsi que toute la souffrance qui allait avec était désormais très loin derrière lui. Il avait monté sa propre agence de tourisme et il s'en sortait bien. Quand je lui demandais après son épouse Aya, il me répondit qu'elle était en vacances en France. Elle avait enfin retrouvé son amie Caroline et chaque année, elles se rendaient mutuellement visite. Chapitre 2. Pinocchio et moi, nous avions rendez-vous le lendemain matin à la gare d'Adjamé. C'est là qu'il avait établi les bureaux de Pinot Transport, sa société de transport qui reliait Abidjan à Bouna et plusieurs autres villes du pays. C'est dans cette ville du nord-est de la Côte d'Ivoire qu'il avait grandi aux côtés de son père Gepetto qui travaillait pour une entreprise belge, et qui y avait été affecté à peu près 30 ans plus tôt. Pinocchio s'était senti chez lui à Bouna. À tel point que quand le contrat de Gepetto avait pris fin et qu'il avait dû s'en aller, lui, il avait décidé de rester. Il avait épousé Sally, une femme lobby avec qui il avait eu 14 enfants et il parlait parfaitement la langue locale. Contrairement à Tom Sawyer, Pinocchio n'avait pas vraiment connu une vie difficile. Dans nos échanges, je me rendis compte que nous avions beaucoup d'amis en commun dont les jumeaux Lancy et Fousseni. Après son baccalauréat, il s'était installé à Abidjan et s'était inscrit en sciences éco à l'université. Mais, il avait le sens des business et il aimait tellement ça, qu'au bout de sa 3e année à la fac, il avait décidé de laisser tomber les études et de se lancer dans les affaires. C'est comme ça qu'il avait créé sa société de transport qui se portait d'ailleurs très bien. Après notre entretien, il m'invita à manger un zégen et nous nous séparâmes en planifiant un petit gasoil le week-end suivant. Il m'offrit bien entendu le voyage pour le petit village de Yampoupou, où je devais rencontrer Kimbo. Dieu merci, ça n'était pas très loin d'Abidjan. Kimbo m'attendait à la gare. Je pris place à bord de son 4x4 et nous nous rendîmes chez lui. Il avait un grand duplex, avec un grand jardin et une piscine. C'était la plus grande maison du village. Kita, sa petite sœur, vint à notre rencontre et m'embrassa pour me souhaiter la bienvenue. J'étais surpris parce que je connaissais bien son visage, mais j'étais à mille lieues de m'imaginer que c'était elle, Kita, la petite sœur de Kimbo. Elle était devenue DJ Kita, la chanteuse internationale qu'elle avait toujours rêvé d'être. C'était une star du coupé décalé qui n'avait rien à envier à DJ Arafat ou à DJ de Bordeaux et consorts. Elle avait fait pas mal de tournées en Afrique, en Europe et aux États-Unis et son manager n'était autre que Kimbo. J'étais arrivé pile à l'heure du déjeuner. Depuis la terrasse où nous dégustions un apéritif, le parfum de sauce graine me titillait les narines. Kimbo me fit part de ses grands projets en tant que nouveau président de leur association. Il avait beaucoup de bonnes idées et je me demandais si la durée de son mandat lui permettrait de les matérialiser toutes. La cuisinière vint annoncer que le repas était servi. La sauce graine présentait un visage vraiment radieux. Il y avait tout dedans. Crabe, escargot, plots, piment rouge, piment jaune, queue de bœuf fumée, viande de brousse. De quoi faire saliver même un homme rassasié. Dans la soupière d'à côté, une sauce claire, tout aussi provocante dans laquelle baignaient de gros morceaux de poisson fumé, attendait à côté d'un plateau argenté où des foufous étaient artistiquement disposés. Et la cerise sur le gâteau, c'était les 2 bouteilles de Valpierre qui se tenaient fièrement debout au beau milieu de la table. Après le repas, j'avais le ventre ballonné et je commençais à somnoler dans le canapé sur la terrasse. C'était inévitable et Kimbo le savait. C'était difficile, voire impossible de résister au sommeil après avoir mangé comme ça. J'avoue que j'avais exagéré un peu. J'avais pris un peu de tout tellement c'était bon. Tout ceci ajouté au garba que j'avais mangé avec Pinocchio avant de quitter Abidjan. C'était trop. Je m'endormis sans effort et Kimbo ne fit rien pour m'en empêcher. Il était 17h passé quand j'ouvris à nouveau les yeux. Kimbo s'était endormi aussi dans le divan au salon, et Kita était dans sa chambre. Il me rejoignit sur la terrasse, et devant une bouteille de Blanco sortie de je ne sais où, nous commençâmes l'entretien. Après ses études primaires, il était parti vivre en France pendant plusieurs années, chez une de ses tantes. Dans son récit, je compris qu'il avait fait partie des précurseurs du coupé décalé avec le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, feu le président d'Uxaga. Il me citait des noms plutôt connus comme Jean-Jacques Kouamé, Boro Sangui, Lino Versace, Abou Nidal, le Mollard et plein d'autres. Ils s'étaient tous connus à Paris et avaient lancé ce concept sans savoir que ça prendrait autant d'ampleur. Mais, contrairement aux autres, ils n'avaient pas fait long feu au devant de la scène. Il n'avait pas pu se mettre dans la peau d'un artiste. Il était donc resté dans l'ombre et avait aidé à booster la carrière de ceux qui voulaient chanter. C'est comme ça qu'à son retour de Paris, il avait décidé de prendre sa petite sœur sous son aile et de faire d'elle une star. Un pari qu'il avait réussi puisqu'aujourd'hui, elle était devenue une grande figure du coupé décalé. Elle apparut juste au moment où on parlait d'elle et prit place à côté de moi. J'en profitais pour faire un selfie avec elle. Être à moins de 20 cm d'une star, ça ne m'arrivait pas tous les jours. Kimbo me parla aussi de ses deux mariages ratés mais dans lesquels il avait eu de beaux enfants, de sa femme actuelle qu'il avait rencontrée sur le plateau de l'émission Tempo alors qu'il échangeait avec Didier, l'animateur vedette. Son histoire était intéressante, mais je regardais tout le temps ma montre parce que la nuit tombait, et je devais me taper une heure de route pour rentrer à Abidjan. Il s'en aperçut et insista pour que je passe la nuit à Yampoupou. « Nous irons ensemble à Abidjan demain », proposa-t-il. J'hésitais un peu mais, l'intervention de Kita finit par me convaincre. Elle m'attrapa par le bras et me supplia presque de rester. Je ne pus refuser leur hospitalité. Elle se chargea de me préparer une chambre dans leur grande maison pendant que j'appelais ma chérie à Abidjan pour lui dire que je ne rentrerais pas. Comme il fallait s'y attendre, mon appel la rendit si furieuse qu'elle me raccrocha au nez. Mais je n'y pouvais rien. Je détestais voyager la nuit. En plus d'avoir la plus grande maison, Kimbo avait aussi le plus grand maquis du village, le boulevard des Stars. J'étais vraiment impressionné. C'était un maquis géant qui pouvait accueillir facilement 700 à 800 personnes, avec du bon son et des jeux de lumière qui créaient une ambiance de discothèque. C'était balèze. À peine installé, il fit signe à une serveuse qui, dans les 5 minutes qui suivirent, déposa sur notre table une bassine remplie de bière et de vin mousseux. Je compris qu'il y avait un show dans l'air. Kita changea de place et se retrouva juste à côté de moi. J'avais remarqué qu'elle me faisait des appels de phare depuis mon arrivée, mais je me refusais de croire ce que je croyais. Elle me prenait la main, me souriait, tombait sur moi quand elle éclatait de rire. Moi-même je ne comprenais pas et ça me gênait un peu à cause de Kimbo. Mais lui, ça n'avait pas l'air de le déranger. Moi qui ne dansais jamais, je me retrouvais sur la piste avec elle, en train de sortir des faces que je ne me connaissais pas. Je crois que ce sont les coupes de vin mousseux qui me donnaient une telle inspiration. Il y eut une belle ambiance en tout cas. Jusqu'à 4h du matin, quand nous quittions les lieux, il y avait encore plein de gens qui, de toute évidence, avaient l'intention de festoyer jusqu'au petit matin. Moi, j'étais vraiment fatigué et il fallait que je dorme. J'avais un peu trop poussé sur l'alcool. Mon téléphone sonna vers 11h. Je ne savais pas qui m'appelait, mais je décidai de ne pas décrocher. Le plaisir du sommeil était trop intense et il n'était pas question de l'interrompre. Mais la personne insista tant que je finis par décrocher. C'était une erreur. En plus, c'est à ce moment-là que je réalisais que j'étais totalement nu, et que je n'étais pas seul dans le lit. Je me redressai doucement pour voir qui dormait à côté de moi. Je faillis tomber du lit quand je vis que c'était Kita. Je jetai discrètement un coup d'œil sous le drap. Elle était nue aussi. Je descendis du lit pour aller aux toilettes et mon regard tomba net sur un préservatif par terre, puis un deuxième. Mes souvenirs étaient flous et me revenaient par petits bouts, comme des flashs. Vu l'aspect des préservatifs, ça ne faisait aucun doute, nous avions couché ensemble. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Me dis-je intérieurement en attrapant ma tête. Kimbo, Kita et moi, nous prîmes la route d'Abidjan juste après le déjeuner. En chemin, je pris soin d'acheter un gros régime de bananes, avec du poisson et un agouti énorme. Avec ça, j'étais sûr d'atténuer la colère de ma dulcinée qui refusait de décrocher mes appels. Le soir en rentrant du boulot, elle trouva la table dressée pour deux, avec une bougie et une rose rouge couchée à côté d'une bouteille de vin de grande qualité. Je suis loin d'être un fin cordon bleu, mais j'avais cuisiné pour elle. Une sauce tomate assez épicée enrichie de sardines et accompagnée de riz. C'est ce qu'elle aimait manger quand elle n'avait pas très envie de faire la cuisine. Ça tombait bien parce que c'est tout ce que je sais cuisiner. Bon, ça m'arrive aussi de faire des pâtes et des œufs, mais sans plus. Quand elle ouvrit la petite soupière pour voir l'aspect de ma sauce, elle fut séduite par le parfum. Le qu'elle fit en fermant les yeux m'emmena à conclure que notre palabre était fini. Elle m'embrassa et se dirigea vers la chambre pour se débarbouiller. Quand elle vit tout ce que j'avais ramené de voyage, elle fut si contente qu'elle oublia qu'elle avait prévu me sermonner et me bouder. C'est pour ça que je l'aimais tant. Elle ne se fâchait jamais longtemps, et elle avait le don de décrisper l'atmosphère quand celle-ci s'alourdissait. Nous mangeâmes en amoureux, mais la petite aventure avec Kita faisait que je me sentais coupable. En un an de vie commune, c'était la première fois que je me trompais de femme. Nous étions encore à table quand mon téléphone se mit à sonner. C'était Winnie l'ourson. Il était plutôt agressif.
Coco Joyce,
cria-t-il presque.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois nous interviewer, non ?
Oui, bien sûr, dis-je. Mais les prochains sur ma liste, ce sont Booba et sa sœur Frisquette.
Booba vient de quitter chez moi justement. On se demandait quand est-ce que tu allais passer nous voir. C'est mon voisin, tu sais, et en plus, c'est mon beau.
Ah bon ? Je ne savais pas.
Oui, nos maisons sont collées et on est tout le temps ensemble. Avec Tao Tao aussi que tu dois connaître.
Ah ok, c'est génial ça. Oui, bien sûr que je connais Tao Tao toi aussi.
Ok. Donc tu passes quand ?
Demain matin à 10h, ça te va ?
Oui, c'est parfait. Je dirai à Booba et à Tao Tao de venir et mon épouse sera là aussi.
Ok, cool. C'est une bonne idée. À demain alors. Je me levai de bon matin pour ne pas être en retard. Winnie habitait très loin et je n'avais pas confiance au trafic routier. Avec les interminables bouchons qu'il y a partout, on n'était jamais sûr d'arriver à l'heure à un rendez-vous. J'étais content parce que j'allais pouvoir faire d'une pierre quatre coups. Booba, Frisquette, Tao Tao et Winnie que j'avais du mal à appeler l'ourson vu qu'il était devenu grand, gros et un peu vieux. Ils vivaient tous dans la même zone, dans un campement vers Ndotré. Les indications de Winnie étaient claires et je n'eus pas de mal à trouver l'endroit. Ils étaient tous là et m'attendaient devant deux bouteilles de Bangui. Après de chaudes salutations, Frisquette m'apporta une chaise et un verre que Booba s'empressa de remplir avant de porter un toast. Le Bangui était vraiment bien dosé et raisonnablement sucré. J'avais prévu passer au maximum 2 heures de temps avec eux, mais ils me retinrent jusqu'au milieu de l'après-midi. L'entretien se déroula dans une ambiance festive. Nous mangeâmes et le blanco coula à flot. Chacun me conta son histoire dans les détails et je pris congé d'eux en promettant de passer leur rendre visite de temps en temps. J'avais beaucoup aimé la tranquillité de ce campement. Winnie avait été le premier à me conter son histoire. En grandissant, son esprit aventurier avait pris le dessus, ce qui l'avait amené à voyager beaucoup, surtout sur le continent africain. Et puis un jour, par malchance, son chemin croisa celui d'un gang de dangereux braconniers libériens qui le capturèrent et le vendirent à un cirque qui faisait route vers la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il fit la connaissance de Booba et de sa sœur Frisquette. Contrairement à lui, eux ils n'avaient pas été capturés. Ils avaient intégré le cirque d'eux-mêmes et ça faisait déjà plusieurs années qu'ils faisaient gagner beaucoup d'argent aux propriétaires à cause de leur numéro très apprécié par les enfants. Ils se lièrent d'amitié, mais Winnie ne voulait pas de cette vie de star de cirque, et il fit appel à toutes ses capacités de baratineur pour convaincre Booba et sa sœur de se sauver avec lui. Il avait un plan et attendit le moment opportun pour le mettre à exécution. C'est pendant une pause à Blolequin que l'occasion rêvée se présenta. Ils profitèrent du moment où les deux gardiens nettoyaient leurs cages pour les maîtriser et s'évanouir dans la forêt. Ils marchèrent pendant des mois avant d'atteindre Abidjan. Winnie conduisit ses amis chez son cousin Tao Tao qui vivait dans la forêt du Banco. Ils y restèrent quelque temps avant de s'installer tous ensemble dans la zone de Ndotré. C'est dans ce même campement qu'il avait demandé Frisquette en mariage. Ils étaient mariés depuis une quinzaine d'années et de leur union étaient nés 4 enfants. Tao Tao, quant à lui, connaissait la Côte d'Ivoire plus que les autres. Avant son arrivée en terre ivoirienne, il avait séjourné à Banfora au Burkina Faso, avant de se retrouver à Niangoloko, à quelques kilomètres de son premier point de chute. Il avait continué sa course jusqu'à atteindre Ferke, Korogo et enfin Boundiali où il avait séjourné juste 3 mois. Le climat et la végétation ne l'avaient pas beaucoup arrangé. Vivre en zone de savane, ça n'était pas facile pour un panda. Il avait traversé tout le pays jusqu'à Dabou où il s'était installé. Puis au bout de 3 ans, il avait décidé de reprendre sa vie de nomade, et il avait fini à la forêt du Banco où son cousin était venu le retrouver avec Booba et Frisquette. Quand il avait été question de déménager, il n'avait pas été très chaud parce qu'il aimait cette forêt. Il avait fallu lui dire que le bambou de Chine poussait à profusion dans la zone de Ndotré pour qu'il accepte d'aller vivre là-bas. En début de soirée, j'avais rendez-vous avec Maya l'abeille quelque part à Faya. C'était la reine de sa colonie. J'étais obligé de faire comme tout le monde et de l'appeler Majesté. L'amitié qu'il y avait entre elle et Willy quand ils étaient gamins s'était transformée au fil du temps. En devenant adultes, ils s'étaient sentis attirés l'un par l'autre et ils avaient fini par s'accoupler pour donner naissance à une grande colonie d'abeilles. Elle était beaucoup plus sage. Je la regardais et je revoyais la petite abeille qu'elle fut, celle qui voulait partir à la découverte du monde alors qu'elle savait à peine voler. Tous ses amis d'enfance étaient avec elle dans son palais. Flip la sauterelle, Max le ver de terre, Shelby l'escargot et les autres. Tous vivaient au palais et avaient des fonctions importantes. Ce qui provoquait parfois le mécontentement des autres abeilles qui avaient du mal à concevoir que des non-abeilles puissent occuper par exemple des postes ministériels. Maya savait que ces décisions ne faisaient pas toujours l'unanimité, mais elle les prenait quand même dans l'intérêt des siens, et le temps lui donnait toujours raison. Quand on se séparait, elle m'offrit 5 gros pots de miel et me remit une enveloppe pour mon transport, selon ses propres mots. C'est une fois dans le taxi, assis sur la banquette arrière que j'ouvris l'enveloppe pour compter les billets. Ma tête tourna tellement je n'en revenais pas. Il y avait 1 million de francs CFA. Je ne pus m'empêcher de pousser un cri qui fit freiner subitement le chauffeur. Intérieurement je me dis, et Dieu, si seulement tous les gars pouvaient me donner une enveloppe comme ça après chaque visite. Mais je me ressaisis vite fait. Je préférais ne pas rêver. Je pris mon téléphone pour appeler ma chérie qui était encore au bureau. « Allô bébé, lançai-je. Ne tarde pas trop mon cœur. Ce soir on dîne au restaurant. » Je ne savais pas que le projet d'écrire sur les anciennes stars du club des petits allait susciter autant d'intérêt de leur part. Mon téléphone n'arrêtait plus de sonner du matin au soir, chacun voulant connaître le jour de ma visite. Certains dont je tairais les noms allaient même jusqu'à me proposer de l'argent pour que je les mette en priorité dans mon planning. Je trouvais ça amusant et encourageant. Ils adhéraient tous à l'idée et j'étais content parce que ça allait me faciliter le travail. Mon rendez-vous suivant, c'était à Bingerville avec Mowgli. Il suggéra qu'on se retrouve au coup de frein pour manger d'abord et échanger ensuite. J'arrivais en premier. Il faisait chaud et j'avais envie d'une bière bien glacée. Je pris place dans un coin tranquille et fis signe à la serveuse qui s'occupait de mes voisins d'à côté. mon attention fut tout de suite captée par un Drogba qu'elle venait de déposer sur leur table. La bouteille était blanchie par le froid du congélateur et entourée d'une sorte de vapeur qui semblait se dégager des parois. J'avalai ma salive. Ça ne faisait aucun doute. Cette bière était frappée à souhait et c'est ce qu'il me fallait pour étancher ma soif. Je priai la serveuse de m'apporter la même chose. Je remplis mon verre sans faire de mousse. Le plaisir de ma première gorgée avait tout d'un orgasme. Je sentais le liquide glacé et pétillant parcourir mon ésophage jusqu'à achever sa course dans mon estomac. J'avais les yeux fermés pendant que je vidais le verre d'un trait. Je le remplis à nouveau et le vidai encore, toujours d'un trait. Ça me fit un bien fou. Mowgli arriva sur une grosse moto style Harley Davidson. À l'arrière, une femme était amoureusement accrochée à lui. Un autre bolide gara juste à côté avec dessus, un homme et une femme aussi. Je me demandais qui ça pouvait bien être. Ils étaient tous les quatre habillés d'une manière assez spéciale, en pantalon et blouson de cuir, exactement comme cette bande de motards de la célèbre série Sons of Anarchy. Leur arrivée attira bien entendu l'attention sur eux. Je devinais aisément ce que les gens se posaient comme question. C'était la même que je me posais aussi. Blouson en cuir, manches longues en plus, sous ce soleil de plomb. Il n'avait pas chaud ou quoi? Le visage du deuxième motard me revenait au fur et à mesure qu'il avançait vers moi. Et puis soudain, je me frappai la tête. Mais oui, bien sûr. C'était bien lui, c'était Arthur Fonzarelli. Le grand Fonzie. Je me levai pour les accueillir et les embrasser. Je savais qui étaient les deux hommes, mais les dames, franchement, je n'en avais aucune idée. Alice, qui l'avait remarqué, se présenta sans attendre et l'autre lui emboîta le pas.
« Je suis Samantha, »
dit-elle.
« Ma sorcière bien-aimée, tu t'en souviens ?»
Je poussai un cri et tout le monde se mit à rire. J'étais loin de m'attendre à une telle surprise de la part de Mowgli. Il ne m'avait pas dit qu'il viendrait avec tout ce beau monde. Oui, pour sûr que je m'en souviens. Je ne ratai aucun épisode.
« Oui, je sais, je me souviens très bien de toi. Je me souviens de vous tous d'ailleurs, je voyais comment vous vous précipitiez devant la télé tous les soirs à la même heure. »
« Ah bon ? Comment ça ? Tu nous voyais vraiment ? Comment est-ce possible ?»«
Tu oublies que c'est une sorcière. »
intervint Fonzie.
« Au fait, et ton frère Manuel, il va bien ?»
Cette question me fit frissonner. C'était donc vrai qu'elle nous voyait et connaissait chacun de nous. Ciel ! J'étais assis à côté d'une sorcière authentique. Je suppose qu'elle avait posé la question juste pour me montrer qu'elle disait vrai. Je répondis que mon frère était là, et qu'il se portait bien. Elle sourit et me donna une tape en disant
« Ne t'en fais pas, tu as affaire à une gentille sorcière. »
Nous passâmes tout l'après-midi à bavarder et chacun me parla de sa vie post-club des petits. Mowgli devait avoir autour de 25 ans quand il quitta la jungle pour vivre dans le vaste monde des humains. Il commença par suivre des cours du soir pour s'instruire et travailla quelque temps comme plongeur dans un restaurant, quelque part en Inde. Mais il ne dura pas dans ce milieu. Il avait besoin de voir le monde, de le découvrir. Il émigra aux États-Unis où il intégra un gang, et côtoya les grands seigneurs de la drogue et du crime organisé. C'est dans cet univers qu'il fit la connaissance de Fonzie qui appartenait à un gang rival. Il avait été grièvement blessé lors d'une bagarre et c'est Fonzie qui l'avait conduit à l'hôpital alors qu'ils étaient censés être des ennemis. La tête de ce dernier fut mise à prix juste pour ce geste. Juste pour avoir sauvé un ennemi. Il fallait qu'il quitte le pays pour aller très loin et c'est Mowgli qui l'avait aidé à se fondre dans la nature en guise de remerciement. C'est ainsi qu'il foula le sol ivoirien une vingtaine d'années plus tôt. Deux ans après, Mowgli eut des problèmes aussi et dut tout abandonner une nuit pour atterrir à Abidjan. Le chef de son gang l'avait chargé de tuer quelqu'un, mais il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas eu d'autre choix que de se sauver sinon c'est lui qui allait y passer. Bien entendu, c'est Fonzie qui l'avait accueilli chez lui à Trècheville, quartier Biafra. Ensemble, ils ouvrirent un garage et devinrent officiellement des mécaniciens. Fonzie n'avait rien perdu de ses habitudes de beau gosse charmeur et frimeur. Mowgli, quant à lui, avait toujours ce goût prononcé pour l'aventure et le danger. Je ne pus m'empêcher de rigoler quand j'appris qu'il était à la base du triste phénomène du bourreau d'enjaillement, cette mode de la plus haute inconscience qui avait pris Abidjan à un moment donné, et qui consistait à faire des pirouettes et autres dangereuses acrobaties sur des bus pendant qu'il roulait. En fait, c'était arrivé par hasard. Il vadrouillait un jour et il était monté sur le capot d'un bus en panne pas loin de chez lui. C'était en fin d'après-midi et le temps était plutôt doux. Il s'était allongé et avait laissé ses pensées se perdre dans les nuages. Il avait fini par s'endormir sans s'en rendre compte. Entre-temps, les dépanneurs de la Sotra étaient venus pour remorquer le mastodonte jusqu'à la gare sud au plateau, et il s'était réveillé alors que le bus roulait. Il avait eu peur au début, mais après, il avait trouvé ça amusant parce que tout le monde le regardait et le saluait. Ce n'était pas habituel de voir quelqu'un sur le toit d'un bus en marche. Il se mit à faire des pirouettes et malheureusement, un public beaucoup plus jeune, en majorité des élèves, en fut séduit au point de l'imiter et d'en faire une mode. Ainsi naquit le bourreau d'enjaillement. Pendant les récits, je regardais discrètement les mains de chacun. Ils avaient tous des anneaux. Je brûlais d'envie de demander après Jean-Pierre à Samantha, son ex-mari. Mais je craignais de mettre tout le monde mal à l'aise. En bonne sorcière, elle devina ce qui me trottait dans la tête et me parla de lui sans se gêner. Il n'avait pas supporté le comportement de sa belle-mère et de toute la famille de Samantha d'ailleurs. Il avait aimé sa femme, mais il refusait qu'elle fasse usage de ses pouvoirs de sorcière. Toute sa belle famille avait vu ça comme une injure et lui avait mené la vie dure. On le transformait tout le temps en cochon, en chien et en tout ce qu'on pouvait imaginer comme animal. Finalement, il avait demandé le divorce. Fonzi et elle s'étaient rencontrés à Assigny, dans un complexe hôtelier qu'elle gérait, et il y avait eu comme un coup de foudre entre eux. Ils étaient mariés depuis 12 ans. Alice, la femme de Mowgli, ne parlait pas beaucoup. Elle écoutait et riait quand l'occasion se présentait. Après avoir quitté le pays des merveilles où on voulait la donner en mariage à un vieillard, le destin la conduisit dans plusieurs pays africains où elle travailla pour le compte d'une ONG. Elle était en poste à Tiébissou quand elle rencontra Mowgli qui était de passage. Quelque temps après, elle demanda une affectation à Abidjan parce qu'elle voulait vivre avec lui. Ils avaient 9 enfants, et ce qui me surprit le plus, c'est qu'ils vivaient toujours en concubinage. Je ne savais pas que les Blancs faisaient ça aussi. C'est chez nous ici en Afrique, qu'on pouvait voir des couples vivre même 50 ans ensemble, sans se marier, et ça ne dérange ni monsieur ni madame. Alice, elle, ne semblait pas désespérée. Elle me disait qu'elle était patiente et convaincue qu'un jour, Mowgli lui passera la bague au doigt. Je le surpris en train de la regarder avec un petit sourire en coin et une mine qui avait l'air de dire « tu peux toujours rêver ». La nuit tombait presque. Je pris mon téléphone pour confirmer mon rendez-vous de 19h avec le fils des âges farouches. Il me proposa de le retrouver au Jamo, vers le carrefour garage à Anono. Il y passait le plus clair de son temps, toujours devant un vin et un plat de gésier. Chapitre 3. Vous l'avez deviné. Il s'agit bien de Rahan. Il avait déjà fait plusieurs fois le tour du monde, et il connaissait bien Abidjan. Il avait eu des copines et des enfants aux quatre coins du monde. Partout où il était passé en tout cas. Mais aucune d'entre elles n'avait pu le retenir. C'est quand il aménagea à Adjoufou 6 ans plus tôt qu'il rencontra Djenéba. Son terminus. Une ravissante Sénégalaise avec des yeux de biche, et des jambes de gazelle. Après qu'elle lui ait donné son énième fils, il décida de se caser une bonne fois pour toutes. De toutes les façons, il avait pris de l'âge, et ne se sentait plus la force de voyager tout le temps. Il avait alors ouvert un atelier de menuiserie, et il avait exercé ce métier qu'il avait appris de Krao, son père adoptif. Mais comme beaucoup d'autres, il fut victime d'une vaste opération de déguerpissement qui l'obligea à quitter Adjoufou pour s'installer à Anono, où en plus de son atelier, il a ouvert 2 grands garbadromes. Un, à Guézivoir, et l'autre, un peu plus haut, vers le terrain du village. Il devait son savoir en la matière à l'un des plus célèbres vendeurs de garba que la Côte d'Ivoire ait connu, El Hadj Mohamed Ibo Chaibo. Il avait fallu que je m'entretienne avec Rahan pour connaître tout le nom de celui que nous avons toujours appelé, Ibo. Celui qui fit converger tout Abidjan vers l'école de gendarmerie pendant près de 25 ans. C'est avec lui que Rahan avait appris en tant qu'assistant, avant de parfaire sa formation avec Azibaboul, un autre monument du métier qui vendait au lycée classique d'Abidjan. En fouillant dans ma mémoire, je me souvins qu'effectivement, Azibaboul avait un apprenti des plus insolites, et tout le lycée se demandait ce que pouvait bien faire un blanc dans un commerce de garba. Je m'en souviens très bien parce que j'étais dans cette école. Bref, Rahan gagnait bien sa vie et s'occupait sans problème de sa femme et de ses 11 enfants. Nous étions samedi, et j'avais dû me lever tôt parce que j'avais 4 rendez-vous, et je voulais pouvoir les boucler tous avant la tombée de la nuit. Le premier devait avoir lieu dans un endroit que je n'aimais pas particulièrement. Mais je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'y aille. Il fallait que j'aille à la Maca, à la prison civile pour rencontrer un malhonnête notoire. Pour ceux qui se souviennent de 11 pour une coupe, c'est sûr que le nom Fielok ne leur sera pas étranger. Après les formalités, je me retrouvai face à lui. Il avait toujours sa même tête allongée en forme d'œuf, et sa moustache avait blanchi. Son visage ridé témoignait du fait qu'il avait pris de l'âge, mais il ne s'était pas assagi pour autant. Dans toutes les capitales où il avait séjourné, il avait goûté à la prison. C'était un habitué de l'univers carcéral. Sur le continent africain, il en savait un bon bout aussi sur les prisons. D'Addis Abeba à Conakry, en passant par Djouba au Soudan du Sud, Bangui, N'Djamena, Douala, Abuja, Cotonou et autres, ce voyou avait tout vu. Même à Malabo, en Guinée équatoriale, il avait trouvé le moyen de doubler une personnalité de ce pays, ce qui l'avait conduit d'abord à Guantanamo, puis à Black Beach, deux célèbres prisons de la capitale équato-guinéenne. Pendant qu'il me parlait, j'entendis des voix s'élever, et quelqu'un qui cria
« Tu es vraiment bête comme un dindon !»«
Dindon toi-même !»
Ceci fit un déclic dans ma tête, et je me retournai, certain de connaître ses voix, et cette insulte qui était comme une signature pour son auteur. C'étaient les deux délinquants qui faisaient tout pour mener la vie dure à Kimbo, mais qui échouaient tout le temps. Je les avais oubliés ceux-là. Je résolus de les approcher une fois que j'aurais fini avec Fielok qui n'avait pas l'air de les apprécier, surtout celui des deux, qui de toute évidence, était le chef. Lui et Fielok avaient beaucoup de points en commun. Même physique, même tête d'œuf, même malhonnêteté. Si ma mémoire est bonne, il y a une loi de la physique qui stipule que deux charges identiques se repoussent. Enfin, deux pôles identiques ou deux bornes de même nature. Quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus des termes corrects. Il faut dire qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas mis les pieds à l'école. Je n'étais donc pas surpris que les deux se regardent en chien de faïence. Fielok termina son récit en me parlant de ce qu'il avait fait échouer à la Maca. Il avait braqué un Libanais et la boutique d'un Mauritanien à Koumassi le même jour. Il était en train de faire prodada dans un maquis quand la PJ est venue s'occuper de lui. Il avait encore beaucoup de temps à passer derrière les barreaux. Quand je me dirigeais vers les deux larrons qui fatiguaient Kimbo, ils étaient en train de se chamailler comme d'habitude. Enfin, ils ne se chamaillaient pas. Le chef, excédé par la bêtise de son acolyte, était en train de le rouer de coups. Ne voulant pas m'attarder dans le coin, j'échangeai juste 5 minutes avec eux, le temps de savoir ce qu'ils avaient fait de leur vie depuis la fin de la série, et ce qui les avait conduits en prison. Le chef se méfiait de moi, et n'arrêtait pas de me demander pourquoi je leur demandais ça. J'ai dû parler pendant une dizaine de minutes au moins pour leur expliquer ce que c'est qu'un livre. Pour leur démontrer son importance, et leur parler de ma mission. Une chose que j'aurais pu faire en moins de 2 minutes. Je croyais que c'était le scénario du film qui voulait qu'ils soient idiots, mais je compris pourquoi on les avait choisis. Ils étaient naturellement bêtes. Surtout le gros, qui à mon avis, était irrécupérable. C'est à peine s'ils savaient qu'il était en prison. Ils avaient passé la majeure partie de leur vie à Yampoupou, à ne rien faire à part voler et gruger les gens. Ils avaient dilapidé tout l'argent qu'ils avaient gagné comme acteurs dans Kimbo, et ils s'étaient mis tout le village à dos. Ils avaient alors décidé de s'installer à Abidjan où ils voyaient plus d'opportunités pour des bandits comme eux. Seulement, ils avaient tout, sauf l'essentiel. L'intelligence. C'était une denrée affreusement rare chez eux. Quand j'appris le délit pour lequel ils avaient été enfermés, je pris congé d'eux sans attendre. La police les avait pris avec un gros sac de faux billets. Zeste et Yamatele m'attendaient à l'alocodrome de Cocody. Je devais faire vite parce qu'ils avaient un vol à prendre dans l'après-midi. Quand je leur dis que je venais de voir Fielok à la Maca, ils ne furent pas étonnés qu'il soit là-bas. C'est son milieu naturel, dit Yamatele, qui avait maintenant un écran plasma à la place de sa vieille télé. Pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne le connaissent pas, c'est ce robot qui a une télé à la place du ventre dans la série 11 pour une coupe. À l'époque, il avait une télé ancien modèle qu'il devait taper de temps en temps pour avoir l'image. Depuis quelque temps, il avait décidé de se mettre à la page en se faisant greffer une télévision écran plasma dernier cri, assortie d'une connexion Wi-Fi qui lui permettait de diffuser des images qu'il prenait sur Internet. Lui et Zeste étaient très pris par la préparation du prochain mondial prévu en juin. On était à moins de 3 mois de cet événement planétaire, et il y avait encore quelques petits détails à régler pour que tout soit parfait. C'est pour ça justement qu'ils se rendaient en Russie, le pays organisateur. Je décidai de ne pas les retenir plus longtemps. Je ne voulais surtout pas leur faire rater leur vol. Ils se portaient bien et occupaient des postes importants au sein de la FIFA. C'était suffisant pour les mentionner dans mon livre. Voyager à travers toute la Suède, porté par des oies, avait été quelque chose de très enrichissant pour Nils Holgersson. En me rendant à notre rendez-vous, je me mis à fouiner dans mes souvenirs pour me replonger dans son histoire. Je me souvins qu'une sorte de lutin, avec des pouvoirs surnaturels, je crois qu'ils en ont tous d'ailleurs, l'avait rendu tout petit, histoire de le punir pour sa méchanceté avec les animaux. Il était devenu si petit qu'il pouvait monter sur le dos d'une oie. Et je crois bien que c'est involontairement qu'il s'était retrouvé au milieu d'une colonie d'oies sauvages qui passait plus de temps dans le ciel qu'au sol. À la fin, il avait retrouvé sa taille normale, et il avait fait plein d'autres voyages, toujours portés par des animaux. Il avait par exemple traversé l'Inde sur le dos d'un éléphant avant de rejoindre un groupe de nomades avec qui il parcourut une bonne partie de la Mauritanie, assis sur un chameau. Son goût bizarre pour les voyages en animal l'avait conduit à Accra, puis à Abidjan où il croyait pouvoir voyager sur des bœufs. Il avait négocié dur avec les éleveurs de l'abattoir à Port-Bouët, mais aucun n'avait accepté de lui filer même un bœuf pour traverser la Côte d'Ivoire. Pour eux, seul un fou pouvait avoir des idées pareilles. Finalement, c'est sur un cheval qu'il avait parcouru le pays, accompagné d'un groupe de jeunes qu'il avait dû payer pour lui servir de guide. Ils arrivèrent à Korogo, descendirent à Giglo et revinrent à Abidjan. Il avait tellement aimé l'expérience qu'il en avait fait son gagne-pain. Il avait ouvert le club des voyageurs à Grand Bassam. Un club qui organisait des randonnées à cheval à travers le pays. La quasi-totalité des ressortissants européens et américains faisait partie de ce club, et Nils brassait des milliards chaque année depuis plus de 10 ans. Nous étions sur la terrasse de sa grosse villa, face à la mer, et nous buvions du champagne de bonne qualité. La nuit tombait, et je n'étais pas tranquille quand je pensais au car et à la distance que j'allais devoir me taper pour rentrer à Abidjan. Mais il me rassura en disant que quelqu'un me ramènera avec son hélicoptère. C'était la totale. Il avait même un hélico à lui tout seul. Waouh ! Me dis-je intérieurement. Je n'osais même pas imaginer ce qu'il allait me donner comme enveloppe. Si une petite reine comme Maya pouvait me donner 1 000 000 de francs juste pour mon transport, qu'en serait-il d'un multimilliardaire ? Mes problèmes étaient finis. J'allais pouvoir fermer la bouche de mon propriétaire à qui je devais 3 mois de loyer, et payer mes factures de SODECI, de CIE et tout ça, sans oublier le loyer de ma maîtresse. Je me servis encore une coupe de champagne que je vidais d'un trait avant de demander la route. Nils s'excusa et disparut à l'intérieur de la maison, sûrement pour aller chercher mon enveloppe. Il revint quelques minutes après et me tendit un billet de 10 000 en me disant « Prends ça, tu boiras une bière à ma santé ». Ma tête tourna. En une fraction de seconde, le monde sembla s'écrouler. Dans l'hélico qui prenait déjà son envol, mes yeux se baignaient de larmes. Mais je dus soulever la main pour répondre au signe d'au revoir qu'il me faisait. Je profitai du bruit assourdissant de l'appareil pour lui lancer doucement et hypocritement
« Petit bâtard, la tchafoutaise !»
Il faisait déjà nuit, et je n'en avais pas encore fini avec mes entretiens. Il m'en restait un, mais franchement, je n'avais pas le moral. Tout ce que je voulais c'était rentrer à la maison. L'hélicoptère m'avait ramené à Abidjan, mais j'étais encore bien loin de chez moi. Juste au moment où je pensais annuler et reprogrammer le rendez-vous, mon téléphone sonna. C'était Superman. Il n'était pas question pour lui de reporter quoi que ce soit. D'ailleurs, il était déjà en route pour Élysée Viera où on devait se rencontrer. Je le trouvais devant une grosse bière et une cigarette en main. Je ne savais pas qu'il s'était mis à fumer. L'impact des années était visible sur son physique. Il avait le visage ridé, il avait pris du poids et il avait un ventre énorme. Franchement, il n'avait plus rien à voir avec le beau gosse que je voyais à la télé. Il s'était laissé aller et je ne manquais pas de le lui dire. Il accusait l'âge pour se justifier, mais dans nos échanges, je compris qu'il y avait autre chose. L'échec de son 12e mariage. Il avait convolé en juste noces 2 ans plus tôt avec une jeune fille qui avait le tiers de son âge. Leur union fut marquée par le conflit de 2 époques et 2 styles de vie trop distants, et donc trop différents. Elle aimait la belle vie. Les sorties en boîte de nuit où elle pouvait faire travaillement avec l'argent de son mari. Danser Kpangor ou Okeninkpa. Faire le show jusqu'au matin, et aller manger Plakali avant de rentrer chez elle. Lui, il passait son temps devant la télé, préférant suivre la Chakala ou bien les frasques de Ruby, ou encore les problèmes de Saloni. Ces séries sont généralement très appréciées de la gente féminine surtout. Mais ça n'était pas son cas à elle qui préférait regarder des clips vidéo sur Trace TV. Bien évidemment, cela engendrait tout le temps des discours qui se terminaient en engueulade. Elle le trompait sans la moindre pudeur avec un boucantier qui avait réussi à la convaincre de quitter le pays avec lui. Elle avait demandé le divorce avant. Il en avait beaucoup souffert parce qu'il l'aimait vraiment. Il s'en était remis peu à peu, et vivait désormais de son petit commerce. Il vendait pain brochette au terminus de la Riviera 2. Le dimanche à 13h, j'étais invité à déjeuner chez l'illustre famille Barbapapa, à Abobo Avocatier. Barbapapa et Barbamama avaient acheté une immense propriété où chacun de leurs enfants avait sa maison. Ils ne voulaient pas que leur famille soit dispersée dans la ville. Ils voulaient tous rester ensemble. Je ne m'attendais pas à être accueilli avec autant d'honneur. Ils avaient loué 2 bâches, et tué 4 moutons. Pour ce qui est de la boisson, il y avait de quoi satisfaire tout un village. Et pour terminer, ils avaient sollicité les services de 2 DJ pour faire mon atalakou. Dès que je fis mon apparition, ils m'attaquèrent en même temps. Je crois que c'est un cri du genre le puissant gars, quelque chose comme ça. J'étais obligé, au passage, de travailler un peu sur eux en leur lançant un billet de disco. 10 000. C'était le billet que Nils Holgersson m'avait donné la veille. Ce faux type-là. Le coin grouillait de monde. Comme s'ils avaient mobilisé tout le quartier. Je fus installé à la table d'honneur, aux côtés de Barbapapa et Barbamama. Puis commença une série de discours de bienvenue. Je faillis crier quand je vis une équipe de reportage de la RTI avec la caméra déjà braquée sur moi. Aïe, mais c'est quelle histoire ça ? Me dis-je intérieurement. Là où je faillis m'évanouir, c'est quand on m'invita à prononcer un speech en tant qu'invité d'honneur. Je n'étais pas content. Ils auraient pu me prévenir quand même. Ma foi. Ils auraient pu me dire qu'ils comptaient organiser une grande cérémonie en mon honneur. Au moins, j'aurais préparé un discours. Voilà que maintenant, j'étais obligé d'improviser. Ah non. Je n'étais pas content. Je fis de mon mieux néanmoins pour être concis sans toutefois donner l'impression de faire un discours expéditif, et je fus très ovationné. Mais je n'étais pas content quand même. Quand les DJ revinrent à la charge avec leur Ibisanga et Bisanga en se dirigeant vers moi, je fis semblant de recevoir un appel en criant « Allô, allô ?» juste pour pouvoir me lever et leur échapper. La même scène se répéta une 2e fois, et pour la 2e fois, je reçus un appel imaginaire. La 3e fois, ils se dirigèrent vers quelqu'un d'autre. Je crois qu'ils avaient compris. Quand tout le monde eut fini de manger, j'entrepris de m'entretenir individuellement avec chaque membre de la famille. Barbapapa s'était lancé dans l'élevage de poulets. Il avait commencé timidement et difficilement. Au début, il le faisait pour sa famille, pas dans le but de vendre. Le temps et la qualité de ses poulets lui avaient fait comprendre qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent avec cette activité. Petit à petit, il devint le principal fournisseur de poulets dans sa zone, puis, de tout à bobo. Aujourd'hui, sa renommée s'est étendue, et ses poulets se mangent dans presque tous les maquis et restaurants d'Abidjan. Barbamama, son épouse, s'était spécialisée dans la vente de galettes et de petits gâteaux. Son petit commerce avait grandi, et elle l'avait baptisé les délices de Barbamama. Elle avait une dizaine de kiosques à Abobo et plein d'autres à Angré, à La Riviera, à Cocody, à Yopougon et à Trècheville. Ceux de Marcory, Koumassi et Port-Boué étaient sur le point d'être installés. Elle employait des filles qui préparaient tout depuis l'espace aménagé dans l'arrière-cour, et deux camionnettes se chargeaient d'approvisionner tous les kiosques. Je compris d'où venait ce délicieux parfum de gâteau qui dominait l'atmosphère depuis mon arrivée. Barbamama, c'était vraiment une femme battante et je l'admirais beaucoup. Leurs enfants, quant à eux, avaient décidé de travailler en association. Les Barbabébé-filles, bon c'est vrai qu'elles ne sont plus des bébés, Barbalala, Barbabelle et Barbotine avaient ouvert une chaîne de salons de coiffure très moderne dans leur commune, et elles gagnaient bien leur vie. Chose bizarre, elles avaient été toutes mariées, et elles avaient toutes divorcé. La quarantaine passée, elles avaient des enfants et des gars, mais aucune d'elles n'avait cherché à se remarier. Les garçons, Barbidur, Barbibule, Barbidou et Barbouille étaient tous des transporteurs. Chacun roulait son propre gbaka, et ils avaient tous les quatre des taxis qui sillonnaient la ville nuit et jour. Barbidur et Barbidou étaient les seuls à être mariés. Barbibule n'y pensait même pas. Il avait plein de copines et plus de 15 enfants à Abidjan et à l'intérieur du pays. Trois d'entre elles étaient encore enceintes. Barbouille, lui, ne se cassait pas la tête. Il sortait avec toutes les servantes de la cour et les enceintait en désordre. Sa mère avait beau se plaindre, ses sœurs avaient beau le raisonner même si elles étaient mal placées pour ça, il ne changeait pas. Dès qu'il voyait une nouvelle bonne, il ne tenait plus en place. Même celle des voisins ne lui échappait pas. Dans tout le quartier, on le connaissait pour ça. Mais c'était un bon gars. Courageux et travailleur, et tout le monde le trouvait sympathique. Tom et Jerry. Voici deux sacrés numéros que le temps n'avait pas réussi à changer. Jerry prenait toujours un malin plaisir à provoquer Tom qui ne se lassait pas de lui courir après. Mais les poursuites n'avaient plus le même dynamisme, compte tenu du fait qu'ils n'étaient plus très jeunes. Ils arrivaient encore à courir, mais sous la contrainte des os vieillissants, ils ne pouvaient plus être aussi rapides et aussi vivaces. Quand j'étais plus petit, je me disais que ces deux-là se détestaient au plus haut point. C'est en tout cas l'impression que j'avais quand je les voyais courir dans tous les sens. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il n'en était rien. Bien au contraire. C'était leur façon à eux d'exprimer cette grande et belle amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre. Une amitié qui est restée intacte, et qui les a suivis jusqu'à Yopougon-Siporex où leurs appartements se faisaient face, dans un immeuble à trois étages. En prenant de l'âge, Jerry avait eu, à un moment donné, de plus en plus de mal à échapper à Tom. Il avait donc fait appel à un certain Speedy Gonzalez pour le coacher et lui apprendre à courir plus vite. Les résultats avaient été probants, et Tom avait été le premier à reconnaître les progrès de son ami Jerry. Quand on a la souris la plus rapide de l'Ouest comme entraîneur, c'est clair qu'on a beaucoup de chances d'être aussi rapide qu'une fusée. Tom s'en était plaint d'ailleurs en disant que c'était de la triche, et il avait décidé lui aussi de s'offrir les services d'un professionnel de la vitesse. Et son choix s'était porté sur Bip Bip, l'ennemi juré de Coyote. Ceci avait d'ailleurs créé des tensions parce que ce dernier n'avait pas beaucoup apprécié la présence d'un chat aux côtés de la volaille la plus rapide de toute la contrée. Pour lui, c'était une astuce de Tom pour dévorer Bip Bip. Ce qui était inconcevable. Toute sa vie durant, il avait traqué cet oiseau pour en faire son festin, et il n'avait jamais pu lui arracher même une plume. Il était hors de question qu'un autre prédateur vienne lui prendre sa proie. Tom avait beau lui expliquer qu'il voulait juste apprendre à courir vite, rien n'y faisait. Après une bagarre dominée par Coyote, Tom s'était retiré sans insister. Tout ceci remontait à une quinzaine d'années en arrière. Je voulus à ce propos, entrer en contact avec Bip Bip et Coyote pour prendre aussi de leurs nouvelles, mais ils n'étaient plus à Abidjan. La dernière fois qu'ils avaient été aperçus, c'était sur la route de Dabou. Coyote avait un baluchon et disait qu'il quittait le pays. « Je suis fatigué », avait-il lancé à Jerry. Tom était devenu le plus grand vendeur de spaghettis de toute la zone. Il avait commencé avec une petite cabane en bois, et avait évolué au fil des années à tel point qu'aujourd'hui, il était le seul dans tout Yopougon à avoir un kiosque en dur. Il avait le meilleur spaghetti omelette et le meilleur lait caillé. Tous les chats du quartier mangeaient chez lui, et il avait aidé et formé plein de petits dialogues qui voulaient se lancer dans ce métier. Il était devenu si populaire qu'il avait même eu des ambitions politiques. Il avait voulu devenir maire de Yopougon. Mais c'est un rêve qu'il n'avait pas pu concrétiser à cause de ses origines. Il n'était pas ivoirien. De son côté, Jerry s'était lancé dans la vente de boissons en gros. Il avait ouvert un grand dépôt vers la pharmacie Kenya et ravitaillait tous les maquis du périmètre. La demande était si forte qu'il avait été obligé de former deux équipes pour faire tourner son business 24 heures sur 24. Il s'y était investi corps et âme et avait gagné beaucoup d'argent. Suffisamment, en tout cas, pour construire trois immeubles. Deux à Yopougon Toit Rouge et un à Kumasi. À côté de ça, il avait fait parler son cœur en construisant un foyer d'accueil pour les souris de la rue. Chapitre 4. Le prochain dans mon planning, c'était Tintin. Il fallait que j'aille jusqu'à Tumbokro, une petite localité du district de Yamoussoukro pour le rencontrer. J'aimais l'idée de me rendre là-bas parce que j'allais retrouver mon ami Séverin. Mais je ne me sentais vraiment pas assez en forme pour affronter près de 3 heures de route. Je décidai alors de modifier mon programme et d'aller vers une autre star qui se trouve à Abidjan. Le suivant, c'était D'Artagnan. Je composai son numéro de téléphone tout en priant pour qu'il me mette aussi en contact avec ses amis Athos, Porthos et Aramis. J'eus beaucoup de chance parce qu'ils étaient tous à Abidjan. Rendez-vous fut donc pris dans la soirée à Kumasi, place Inch'Allah. J'appelai ensuite Tintin pour m'excuser et renvoyer notre rendez-vous au lendemain autour de midi. J'avais en tête de continuer par la suite sur Korogo pour voir les anciens chevaliers du ciel. D'Artagnan m'attendait devant la pharmacie du coin. Il portait un pantalon serré et gros bas, genre Prince Nicom Barga, avec une chemise brillante près du corps et la coiffure qui va avec. Bien entendu, il attirait des regards interrogateurs, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Moi si. Je n'osais même pas regarder la chaussure qu'il avait au pied. Craignant de voir ce qu'on avait coutume d'appeler Rocafil Jazz pour désigner ses chaussures aux talons kilométriques portées par le même prince Nicom Barga. Ma crainte était fondée. C'est bien ce qu'il chaussait. Zut, m'exclamai-je. Il m'avait déjà vu sinon j'allais me retourner. Quelle idée de se promener en plein Kumasi avec un accoutrement pareil en plein 2018. Je marchais à côté de lui, mais j'avais un peu honte en vérité. Nous traversâmes un long couloir au bout duquel il y avait un maquis avec un attroupement devant. Il y avait là, plein de vieux retraités qui tuaient le temps en jouant aux cartes ou à d'autres jeux. Athos et Porthos étaient là, en train de jouer au ludo pendant que Aramis, assis devant un jeu d'awalé, se chamaillait avec un vieillard qui l'accusait de tricher. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me demandais ce que D'Artagnan et ses potes pouvaient bien avoir comme problème avec les vêtements de notre époque. Ils étaient tous les trois flanqués dans leurs apparats de mousquetaires. D'Artagnan leur fit signe, et ils nous rejoignirent dans le maquis, où chose bizarre, il y avait moins de bruit que dehors. Sans tergiverser, après qu'on nous ait servi quelque chose à boire, j'entrai dans le vif du sujet parce qu'il se faisait tard. Et puis je ne voulais pas être vu plus longtemps en présence de quatre vieux qui, apparemment, confondaient les époques sans s'en rendre compte. D'Artagnan était marié à Bernadette, une ancienne danseuse de Mapuka Deja, et ils avaient eu 6 enfants. Il était arrivé en Côte d'Ivoire au début des années 80, juste avant la CAN 84 qui avait été abritée par Abidjan. Je compris pourquoi il ne parlait pas comme un blanc. Il parlait comme un vrai Ivoirien, avec des expressions typiquement ivoiriennes et des mots nouchis que moi-même je ne connaissais pas. Dans les premiers mois qui avaient suivi son arrivée, il avait fait la loi avec son épée. Il suffisait que quelqu'un le contrarie ne serait-ce qu'un peu pour qu'il la sorte et la lui mette à la gorge. Les gens avaient eu peur de lui parce que voir quelqu'un manier une épée avec la même dextérité que lui ici à Abidjan, c'était carrément impossible. C'était un as. C'est tout ce qui faisait sa force. Et tout le monde s'en était aperçu le jour où un boutiquier mauritanien lui avait donné un coup de poing avant qu'il ait eu le temps de la sortir. Ce jour-là, il avait refusé de reconnaître qu'il avait pris une boîte de sardines à crédit la veille. Après une chaude discussion, le boutiquier s'était emporté et avait asséné un sacré gnon au mousquetaire. Un gnon qu'il avait envoyé au sol pendant plusieurs minutes. C'est comme ça qu'il avait perdu le respect de tout le quartier, et tout le monde voulait le frapper pour un rien. La honte l'avait poussé à déménager, mais il avait fini par revenir. Il aimait beaucoup Kumasi. Il avait ouvert par la suite un magasin de vente de pièces détachées auto et une supérette. C'est de ces activités qu'il vit jusqu'aujourd'hui. Athos, Porthos et Aramis étaient arrivés à Abidjan le même jour, il y a de ça 8 ans environ. Ils avaient commencé comme D'Artagnan, mais celui-ci avait vite fait de leur ouvrir les yeux. « Si vous comptez sur vos épées ici, ils vont vous frapper tous les jours » avait-il prévenu. Athos avait ouvert une école d'escrime et grâce à lui, beaucoup d'Ivoiriens savaient maintenant manipuler une épée et considéraient cette discipline comme un sport à part entière. Il avait été marié 2 fois avant d'arriver à Abidjan. Il avait rencontré Abiba dans une boîte de nuit au plateau, et il comptait la doter quand leur couple avait pris subitement du plomb dans l'aile. Ils s'étaient séparés parce qu'elle voulait un iPhone qu'il ne pouvait pas payer. Porthos avait ouvert un club d'équitation avec une écurie forte d'une 50aine de chevaux. Il entretenait de très bons rapports avec Nils Holgersson qui venait louer des chevaux avec lui pour effectuer ses randonnées. Le club marchait bien parce qu'il formait beaucoup de gens à l'art de monter à cheval, et il organisait des compétitions qui faisaient rentrer pas mal d'argent. Il s'était marié deux fois depuis son arrivée et aucun de ses mariages n'avait fonctionné. Alors, il avait décidé de ne plus se marier. Sidonie, sa copine actuelle, lui avait fait trois enfants et c'était suffisant pour lui. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, il lui promettait le mariage. Il avait toujours les mots justes pour la rassurer sans tenir sa promesse. Aramis, lui, c'était un vrai djandjou et c'était son choix. C'était un joli garçon. Il savait séduire et se laisser séduire. Il avait tout pour avoir la femme qu'il voulait, mais il avait pris les échecs sentimentaux de ses amis comme argument pour ne pas se marier et rester totalement libre de sortir avec qui il voulait. Ses conquêtes se comptaient par centaines et il avait 46 enfants. Je parle seulement de ceux qu'il avait reconnus. Un peu à Abidjan, un peu en France et un peu dans le reste du monde. Côté boulot, il tenait un cybercafé en zone 4 et il avait un club de jeux vidéo qui ne désemplissait qu'à l'heure de la fermeture. On pouvait le dire. Nos quatre mousquetaires menaient une existence tranquille à Abidjan et vivaient bien de leurs activités respectives. Je me demandais pourquoi on les appelait les trois mousquetaires alors qu'ils étaient quatre. Mais bon, on n'était pas là pour parler de ça. Après l'entretien, ils demandèrent à la propriétaire du maquis, une dame d'un certain âge, de nous servir encore à boire. Athos avait tendance à parler comme si de tous, il était le plus grand buveur. Il parlait de ses exploits en France, du nombre de bières qu'il pouvait ingurgiter en une soirée, du fait qu'il était toujours le seul qui ne prenait jamais de cuite. Il disait que nous les Abidjanais, on était de petits buveurs et qu'on ne savait pas faire la fête. Il alla jusqu'à me lancer un défi. Il avait dépassé les bornes. Je le trouvais bien prétentieux celui-là. Me défier. Moi, une ancienne gloire de l'alcool. Ce célèbre proverbe espagnol me vint subitement en tête. Côté mogo nini, mogo lebe conini. Ce qui veut dire, pour parler terre à terre, c'est pas palabre qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche palabre. Je souris dangereusement et fis signe à la propriétaire du maquis pour qu'elle nous serve encore et encore. Les trois autres s'arrêtèrent à trois bières et décidèrent d'assister. Au bout de la huitième grosse bière, il avait l'air toujours lucide mais il tenait des propos de moins en moins cohérents. Il transpirait beaucoup et se levait tout le temps pour aller pisser. Il en profitait pour vomir, et je m'en suis aperçu. Mais il tenait toujours sur ses jambes. Ça m'énervait. Il fallait que je l'achève. J'appelais encore la tenancière. « Tanti, est-ce que tu as coutoucou ?» lui demandai-je.
« Oui, oui. » Il y en a.
Je me tournai vers lui pour lui demander s'il en voulait. Il hésita et me dit qu'il en voulait, mais n'osait pas.
Ça doit coûter cher ça,
dit-il. T'inquiète, c'est moi qui offre. Je m'adressai à nouveau à la dame. Tanti, celui où on met racine là, est-ce que tu as ça?
Oui mon fils, j'ai ça aussi.
D'accord, serre-nous s'il te plaît. Me dire qu'une tournée de coutoucou coûtait cher, ça voulait dire qu'il ne connaissait pas le produit, et donc, qu'il n'avait aucune idée de ses effets dévastateurs. Ça m'arrangeait. Je demandai à la dame de nous donner deux tournées chacun pour commencer. Ça ne me coûtait que 200 francs CFA. S'il savait, les deux tournées remplissaient les verres presque. Il commit l'imprudence de vider le sien d'un trait. Cul sec comme on dit. Il devint tout rouge et se frappa tellement la poitrine que j'eus peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. Je venais de lui porter le coup de grâce. Pendant que tout le monde était occupé à le souffler et à faire le nécessaire pour l'aider à retrouver ses esprits, je vidai mon verre par terre et le portai à ma bouche comme si je venais de le boire aussi. Je déformais tellement mon visage que personne ne put se douter de quoi que ce soit. Après tout ce que j'avais bu comme bière, il fallait que je sois fou pour avaler ce verre de qui m'a poussé, un autre nom du coutoucou. C'est certain que j'allais tomber devant tout le monde. Athos, lui, ne tomba pas. Mais c'était tout comme. De sa chaise, quelqu'un dut le mettre au dos pour le ramener à la maison. Il était minuit passé quand on sortit du maquis. Les autres mousquetaires me proposèrent de me joindre à eux pour continuer la fête dans une boîte de nuit de Koumassi. Juste à l'entrée, il y avait une belle affiche qui annonçait l'événement du jour, la grande soirée déguisement. Tout devint plus clair dans ma tête. Je compris pourquoi D'Artagnan et ses amis étaient habillés bizarrement comme ça. Ils avaient prévu se rendre à cette soirée après notre entretien. Vu que je n'étais pas vêtu pour la circonstance, les portiers de la boîte me firent savoir poliment que je ne pouvais pas rentrer. C'était la consigne. Il fallait être déguisé. Cela m'arrangeait parce que je ne tenais pas vraiment à rester dehors plus longtemps. Les grosses bières commençaient à faire de l'effet, et tout ce que je voulais, c'était dormir. La gare de Pinot Transport était bondée de monde comme d'habitude. C'était l'occasion pour moi de passer faire un coucou au boss Pinocchio. Mais sa secrétaire m'informa qu'il était à Bangkok pour un séminaire sur les transports interurbains. Qu'est-ce qu'il pouvait bien aller chercher dans un séminaire comme celui-là à Bangkok? Si ça se passait quelque part en Afrique, j'aurais compris. Mais à Bangkok. Je crois qu'il y était allé juste pour se balader et changer d'air. Le séminaire n'était qu'une excuse parce que ça m'étonnerait qu'on y parle des problèmes que rencontrent nos transporteurs dans leur travail. Des problèmes tels que l'état des routes, les contrôles interminables, l'irresponsabilité de certains conducteurs, les coupeurs de route et j'en passe. Bon bref, je m'abstins d'aller plus loin dans mes critiques et m'installai confortablement pour attendre le départ du car. Il était 8h et j'espérais être à Tumbukro au plus tard à midi. Une fois là-bas, je me donnais 3 heures à passer avec Tintin avant de reprendre la route pour Korogo où les lieutenants Tanguy et la verdure m'attendaient. Dès que le car sortit d'Abidjan, je m'endormis et ne me réveillai que lorsqu'il entrait en gare à Yamoussoukro. Les policiers avaient été sympas sur la route. Aucun d'eux n'avait voulu me réveiller pendant les pauses contrôles. Je pris un taxi pour me rendre à une autre gare. Là où je pouvais emprunter un autre véhicule pour me rendre à Tumbukro. Le coin grouillait de voitures, de commerçants de tout genre, et il y avait du bruit partout. Quelque part au milieu de ce tohu-bohu, j'entendis quelqu'un qui criait « Tumbukro une place ». J'avais de la chance. La voiture était déjà chargée et prête à partir. Ce n'était jamais intéressant d'être le premier passager parce qu'il fallait attendre que toutes les places soient occupées avant que le chauffeur ne démarre, et ça pouvait prendre une bonne heure les jours ordinaires. Par contre en temps de Pâques, il y a des départs toutes les 5 minutes. Il faisait beau à Tumbukro. Dès que je descendis de la voiture, j'entendis une voix familière crier mon nom. C'était Séverin. Il était avec Tintin et les deux m'attendaient en dégustant un Valpierre dans un petit maquis. Après de chaudes accolades et des cris de joie auxquels participait Milou avec ses aboiements, je pris place et me versai un bon verre de vin. Ce long voyage m'avait donné soif. J'étais vraiment heureux de retrouver ce petit village tranquille que j'avais découvert quelques années plus tôt grâce à mon ami Spyro. Après les nouvelles, Séverin donna les instructions pour qu'on nous serve à manger. Deux femmes apparurent, portant des plateaux et des soupières. Mon ventre réclamait tellement ses droits avec du bruit, que je me servis deux pains de foutou banane mûre que j'arrosai d'une sauce graine dont le parfum seul me faisait trembler d'envie. Rien que d'y penser, ça me fait encore saliver. Tintin avait vraiment pris un coup de vieux. Il ressemblait à quelqu'un qui en avait vu des vertes et des pas mûres. À son arrivée à Abidjan à l'entame des années 80, il s'était installé dans un bidonville de Marcory. Très vite, il avait compris que pour vivre dans ce quartier, la force physique était un facteur plus qu'essentiel. Très calme et réservé dans les débuts, il avait dû revoir cette partie de sa nature. Il était l'un des rares blancs qui vivait modestement, retiré dans son coin. À cette époque, on les retrouvait dans les quartiers chics de zone 4, billetterie, Cocody ou encore de plateau. Qu'est-ce qu'un petit pot gratté, c'est comme ça qu'on appelait les blancs, pouvait bien faire dans un ghetto, ici à Abidjan? C'est la question que tout le monde se posait en tout cas. Les plus teigneux lui cherchaient des histoires, juste pour mesurer sa force et son niveau de courage. Il s'était laissé faire pendant un moment. Mais un jour, deux loubards avaient essayé de violer sa copine devant lui. La première fille qu'il avait osé draguer, et qui avait accepté ses avances alors que les autres ne lui prêtaient aucune attention. Ce jour-là, il les avait tellement boxés que la nouvelle s'était répandue jusqu'au-delà des frontières du quartier. Et sa réputation était allée en grandissant parce que des chefs de gang, les IGI les plus craints de toute la zone étaient venus le défier, et il les avait tous frappés. C'est comme ça qu'il fut recruté par les Maplessiens, l'une des deux familles de loubards les plus célèbres de Côte d'Ivoire. Les premiers rivaux des Farémois. Dans ce milieu, Tintin avait appris à se faire respecter avec sa force qui étonnait tout le monde. Il n'était pourtant pas grand et musclé. Il était plutôt fréluquet. Plutôt sec comme on dit. Ceux qui avaient eu à l'affronter disaient qu'il trichait en se battant avec des cailloux dans les mains. C'est certainement la mauvaise foi et l'absence d'esprit fair-play qui leur faisait dire ça. Tintin ne trichait pas. Il avait les os très durs, c'est tout. Ses coups de poing donnaient des vertiges justement parce que ceux qui les recevaient avaient l'impression qu'on les tapait avec un caillou. Que nenni. C'était ses os. À la question de savoir ce qu'il avait fait échouer dans ce village, il répondit qu'il avait dû fuir une jeune fille qui disait qu'elle était enceinte de lui. Je restais bouche bée en me disant qu'il me faisait marcher. Lui, un bon loubard qui avait mis au respect de dangereux brigands, fuir devant une simple jeune fille, c'était impossible. Je compris par la suite qu'en fait, ce n'était pas la fille qu'il fuyait, mais le fait de devenir père. Pour lui, c'était trop de responsabilités qui allaient l'obliger à se ranger et à abandonner sa vie de loubard qu'il aimait tant. Pourtant, Marguerite, la jeune fille en question, avait tout ce dont un homme normal pouvait rêver. Physiquement, elle était élancée avec un corps qui, de toute évidence, avait fait l'objet d'une attention particulière de la part du Créateur. C'était une femme de haute valeur morale, respectueuse d'elle-même et d'autrui. Elle avait été folle amoureuse de lui et c'est avec beaucoup de fierté qu'elle avait propagé la nouvelle de sa grossesse. Mais lui, ne voyait pas les choses sous le même angle. Il avait tout simplement fui parce qu'elle devenait collante et tenait à tout prix à lui imposer une vie de famille. Il s'était installé d'abord à Yopougon-Kouté, puis à Songon où il avait passé quelques années. Mais elle avait retrouvé ses traces. Il s'était ensuite réfugié à Débrimou avant de prendre la décision d'aller encore plus loin d'Abidjan, dans un endroit qu'elle aurait du mal à retrouver. Tumbukro collait parfaitement. Il vivait là depuis une quinzaine d'années, et parlait parfaitement le baoulé comme si c'était sa langue maternelle. J'avais du mal à comprendre son attitude vis-à-vis de la jeune Marguerite. Il l'avait fui parce qu'elle portait son enfant et voulait lui offrir une vie plus tranquille. Et pourtant, ces 15 dernières années, il avait donné la possibilité à une autre femme de le faire. Il n'avait pas vraiment eu le choix en fait. Il l'avait enceintée aussi à peine un mois après son arrivée dans le village, et il avait voulu nier les faits. Toute la famille l'avait tellement menacé qu'il avait dû revoir sa position. Ces menaces avaient été d'abord physiques, et ça ne l'avait pas effrayé. Mais quand elles avaient commencé à prendre des allures mystiques, il avait lui-même demandé la démarche à suivre pour officialiser les choses. Il avait dû acheter une dizaine de cartons de vin différents pour demander pardon. Il s'était marié avec elle et ils avaient eu 10 autres enfants. L'âge l'avait beaucoup assagi et il me confia qu'il comptait se rendre à Abidjan pour voir l'enfant qu'il avait abandonné. Il ne savait même pas si c'était une fille ou un garçon. À Tumbokro, le temps avait fait de lui un homme très respecté. Il avait les plus grandes plantations de cacao et de bananes de la région. Il avait pas mal de constructions dont un petit complexe hôtelier où il voulait d'ailleurs me loger. Mais je lui fis savoir que j'étais attendu à Korogo et que je ne pouvais malheureusement pas rester. Il me parla brièvement du capitaine Haddock, celui qui fut son plus grand ami. Ils étaient arrivés ensemble à Abidjan, mais leur chemin s'était vite séparé. Pendant que Tintin passait le plus clair de son temps dans les rues, toujours impliqué dans des bagarres, le capitaine avait opté pour une vie plus sage. Il avait mis son expérience au service des forces de l'ordre ivoiriennes et il avait été à la base de la formation de plusieurs agents qui, aujourd'hui, faisaient la fierté du pays. En reconnaissance de ses bons et loyaux services, il avait été promu général de brigade. Il vit maintenant à Torogué, où malgré son âge avancé, il a en charge la formation de nouveaux gendarmes. Il était 15h30 quand je quittais Tumbokro. Il fallait que je retourne à Yamoussoukro pour prendre un car qui dessert la grande ville de Korogo. J'étais particulièrement content parce que j'avais passé du temps avec une légende du club des petits, et mon ami Séverin. C'était court, mais intense. Et je partais avec la ferme intention de revenir un de ces quatre, le temps d'un week-end. Chapitre 5. Pendant le trajet, j'essayais de me remémorer quelques épisodes de cette série que je ne ratais jamais. Tout me revenait à l'esprit et m'obligeait à replonger dans cette heureuse enfance où je n'avais pour seul souci que de jouer au foot, à cache-cache, à 5 minutes au Japon, à tech-tech, ou à faire des plaquemans, les initiés sauront de quoi je parle. Oui, tout me revenait en tête. Même le générique de fin que je fredonnais sous le regard interrogateur de mes deux voisins de siège.
Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Les chevaliers du ciel sont heureux de leur sort.
Moi je chantais sans tenir compte d'eux. Ils ne ressemblaient pas à des gens qui avaient connu le club des petits. C'était donc inutile d'engager une causette avec eux à ce sujet ou même de me hasarder à leur dire que ce générique était l'œuvre de Johnny Hallyday. C'était un moment de nostalgie qui me faisait oublier beaucoup de choses du genre facture ou loyer du mois à payer. Avec cette chanson, je pouvais voyager dans le temps et me retrouver à l'époque de l'insouciance totale. L'époque où l'on n'avait aucune idée de ce que nos parents enduraient pour qu'on ne manque de rien. Les lieutenants Tanguy et Laverdure m'attendaient à la gare. Oups, autant pour moi. Les colonels Tanguy et Laverdure devais-je dire. Ils étaient montés en grade entre-temps. J'étais complètement terrassé par près de 6 heures de route et il se faisait tard. Ils me conduisirent à mon hôtel et proposèrent de passer me voir le lendemain dans la matinée. Une idée que je trouvais parfaite. Je m'endormis presque aussitôt, tout habillé. Deux coups secs donnés à la porte me réveillèrent. Il était 9h06 du matin. J'aurais bien voulu ajouter encore 2 heures à ce doux sommeil, mais la personne insistait. C'était Laverdure qui était venue me chercher pour aller prendre le petit déjeuner chez Tanguy. Dans le hall de l'hôtel, le réceptionniste salua Laverdure en disant « Salut papa ». Cela me fit tiquer un peu, mais je ne voulus pas poser de questions. Chez Tanguy, la table était mise avec tout le nécessaire pour un petit déjeuner mémorable. Il y avait du chocolat, des croissants, du pain, des omelettes et beaucoup d'autres choses. Ce qui attira tout de suite mon attention, c'est la boîte d'Ovaltine posée sur le côté, et qui semblait n'attendre que moi. J'en raffolais quand j'étais tout petit. Je ne savais même pas que ça se fabriquait encore. Pendant que je me servais cette délicieuse mixture chocolatée, je vis Tanguy en train de se préparer un café baoulé, c'est-à-dire de l'eau avec du sucre. Je l'aime bien dosé, me dit-il avec un sourire, en ajoutant encore plusieurs carreaux de sucre. J'étais épaté. À sa gauche, un pain entier déjà beurré avait été découpé en longueur, puis en largeur et attendait. Normalement, dans les règles de l'art, le café baoulé ne se prend pas avec du pain beurré. Le pain doit être simple et dur de préférence. S'il est entier, on le rond juste au milieu de sorte à obtenir deux demi-pains durs. Ensuite, on plonge la première moitié jusqu'à toucher le fond de la tasse, et on appuie légèrement pendant quelques secondes, le temps de laisser l'eau remonter et prendre possession du pain. Il faut sentir le pain ramollir, et le porter directement à la bouche. C'est ça le premier plaisir d'un bon café baoulé. Mais bon, avec le temps, la technique a évolué, et chacun le déguste maintenant comme il le sent. La verdure choisit de faire comme son ami. Apparemment, ils aimaient beaucoup ce type de café. Moi, je me fis une bonne tasse d'Ovaltine avec du lait Nido, et j'accompagnais le tout avec des croissants. Le café baoulé n'avait plus de secret pour moi et il me rappelait une période un peu sombre de ma vie. Je ne dis pas que je ne l'aime plus pour autant. Non, bien au contraire. Pour moi, il a acquis aujourd'hui une valeur plutôt sentimentale parce qu'il m'a très souvent tiré d'affaires au plus fort de mon temps de galère. Heureusement d'ailleurs que j'avais de très bons rapports avec Shérif le boutiquier que je salue au passage. Je crois qu'il est rentré chez lui en Mauritanie maintenant. Bref, j'aime toujours le café baoulé, mais je préférais me laisser séduire par autre chose. Tanguy et Laverdure avaient été distingués plusieurs fois meilleurs pilotes de chasse du monde. Ils avaient servi leur pays d'origine avec loyauté et ce, pendant des années. Mais, ils avaient été radiés de l'armée après avoir refusé une mission qu'ils étaient les seuls à pouvoir mener à bien. Cette mission consistait à faire tomber un dirigeant démocratiquement élu quelque part dans les pays scandinaves. Ils avaient alors décidé de proposer leur service partout dans le monde où il y avait des conflits. Pour leurs exploits et leur efficacité, ils abandonnèrent l'appellation de chevaliers du ciel pour devenir désormais les mercenaires du ciel. Ils avaient même été à plusieurs reprises sollicités par le célèbre Bob Denard avant son décès. Mais malgré les millions qu'il leur proposait, ils n'avaient jamais pu les avoir. C'était un spécialiste de coup d'état et ils n'avaient pas voulu entrer dans ce créneau. Eux, ils se considéraient comme de gentils mercenaires. Tanguy s'était marié trois fois. Ses deux premiers mariages avaient été des fiascos et il reconnaissait qu'il en portait la plus grande part de responsabilité. Ses longues et nombreuses missions l'avaient empêché d'être assez présent dans son foyer. Ce qui avait poussé ses femmes à lui faire des enfants dans le dos. La première, il l'avait trouvée avec un enfant de 2 ans et une grossesse de 4 mois alors qu'il rentrait de mission. Il ne l'avait pas du tout laissée enceinte quand il partait. Pour la deuxième, c'était pire. Il l'avait trouvée vivant carrément avec un jeune Corogolais à qui elle avait donné des jumeaux. Quand il épousa Zatia, la troisième, il fit le serment de diminuer ses missions pour être toujours près d'elle. D'ailleurs, il n'avait pas intérêt à être tout le temps parti parce que Zatia était l'incarnation de la beauté Sénoufo et elle était dans le collimateur de beaucoup de célibataires et même d'hommes mariés. Elle était trop jolie, mon cher. Parfois j'étais obligé de l'emmener en mission avec moi, me confia-t-il. Qui est fou? Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'ils sont mariés et 5 enfants sont nés de leur union. Toutes les tentatives destinées à le mettre à la retraite avaient échoué. Concernant la verdure, il n'avait rien perdu de son talent de séducteur. Un incorrigible dragueur qui ne pouvait pas voir une femme et se tenir tranquille. Ceci avait d'ailleurs failli lui coûter son amitié avec Tanguy parce qu'il avait tenté sa chance avec Zatia aussi. Mais c'était avant qu'elle n'épouse Tanguy. Ceci avait provoqué un grand palabre entre les deux amis qui en étaient même venus aux mains. Tanguy, qui était jaloux comme un pigeon, n'avait pas supporté de voir son pote de tous les jours faire des avances à sa copine. Il s'était sauvagement bagarré un soir dans un maquis, et tout Corogo en avait parlé. En l'espace d'un an après son arrivée, la verdure avait fini avec la moitié des femmes de la ville. Dans cette même période, il avait été à 2 doigts de se faire expulser parce qu'il était allé trop loin dans son obsession. Il avait couché avec la femme d'un dozo qui, furieux, avait menacé de le faire périr et de faire périr toute sa descendance. Toute la confrérie dozo s'était réunie pour juger l'affaire. Tous étaient unanimes et demandaient sa tête. Tanguy avait imploré leur clémence en pleurant à chaudes larmes et en se roulant par terre. Mais on l'avait menacé de le tuer aussi s'il ne restait pas en dehors de ça. Il avait fallu l'intervention de plusieurs confréries de sorciers européens et américains pour que la tension baisse. Pour laver l'affront, les dozo avaient demandé une colombe vierge pour marquer leur volonté d'aller à la paix, un singe sourd, muet et aveugle de naissance pour dire qu'ils feront comme s'il ne s'était rien passé, qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu et qu'on n'évoquera plus jamais cet incident. Pour finir, tout ceci fut assorti d'une amende de 6 millions de francs CFA. La verdure avait eu chaud, mais ça n'avait pas été suffisant pour le calmer. Il savait parler aux femmes et il en avait enceinté beaucoup. Corogo était rempli de petits métis à cause de lui. Le réceptionniste de mon hôtel était son 7e garçon. Je compris pourquoi, pendant qu'on allait retrouver Tanguy, sur le trajet qu'on faisait à pied, tout le monde le saluait en disant « Bonjour mon beau ». Tout comme Tanguy, il refusait aussi d'aller à la retraite. Il disait qu'il souhaitait mourir en faisant ce qu'il savait faire de mieux dans la vie, en pilotant un avion. Rappelle-moi de ne jamais monter dans ton avion alors, dis-je avec un petit frisson dans le dos. Lui et son ami se mirent à rire. J'en fis autant, mais mon rire était jaune. Je ne trouvais pas ça vraiment drôle. Et si ce jour, il se trouve qu'il n'est pas seul dans son avion, et puis son cœur s'arrête subitement en plein vol. Les autres passagers font comment ? Il me rassura en disant qu'il se portait bien et que s'il devait crever aux commandes d'un avion, ça n'était pas pour maintenant. Malgré ça, je déclinai poliment sa proposition de me ramener à Abidjan. C'était tentant, mais dans la vie, il y a des risques que je préfère ne pas prendre.
Tu seras à Abidjan en une trentaine de minutes au lieu de te taper plusieurs heures en car,
me dit-il pour me convaincre. Ça ne fait rien, répliquai-je, j'aime profiter du paysage. Le corridor de Jesco. Il n'y a rien de tel que de franchir cette étape après plus de 8 heures passées dans un car. Il était déjà 23 heures. J'avais espéré arriver un peu plus tôt pour avoir le temps de rencontrer Samy et Scooby-Doo. Ils étaient les suivants dans mon planning. On s'était parlé Samy et moi quand le car sortait de Boaké. Il se faisait tard, mais je lançais son numéro à tout hasard. Il ne dormait pas. Il y avait de la musique et beaucoup de bruit autour de lui. Il me demanda de le retrouver au Todjot à Adjamé. Je connaissais bien cet espace avec ses nombreux maquis et ses bars. Un coin très ambiancé avec une gastronomie de haut niveau. Ça tombait bien parce que j'avais la dalle. Quelle ne fut ma surprise quand je le trouvai au four et au moulin derrière un étalage de viande avec des poulets dévêtus et précuits. Il vendait choukouya devant un bar. Apparemment, ça marchait bien parce qu'il y avait du monde qui attendait d'être servi. J'entendais certains qui parlaient de son piment. De toute évidence, c'est ça qui attirait les gens. Il se chargeait de la cuisson et Scooby-Doo de l'emballage. Ils avaient l'air bien organisés en tout cas, parce que le service était assez rapide. Je me demandais alors à quel moment on allait bien pouvoir nous entretenir. Je proposais alors de rentrer me débarbouiller et revenir après. Je suis un couche-tard, donc ça ne me dérangeait pas de me pointer même à 4h ou 5h du matin. Mais Scooby-Doo me rassura. Ils avaient pratiquement fini. Une autre équipe s'apprêtait à prendre la relève pour vendre jusqu'au petit matin. Le moment venu, ils suggérèrent de faire l'entretien chez eux à la maison. Je n'y trouvais aucun inconvénient, jusqu'à ce que le taxi s'arrête devant une maison bizarre quelque part au plateau. Ils étaient les seuls à habiter dans le coin. Les trois ou quatre maisons voisines étaient vides. Ces maisons n'avaient pas bonne réputation. Elles étaient hantées. C'est en tout cas l'image qui était collée sur elles depuis des années. Je me demandais comment on pouvait vivre dans un endroit pareil. Surtout de grands peureux comme Samy et Scooby-Doo. Ils m'expliquèrent après qu'ils ne payaient rien comme loyer. Le propriétaire était trop gentil d'après eux. Je ne sais plus combien de temps j'ai hésité avant de me décider à entrer. Nous prîmes place sur la terrasse, et Samy sortit une bouteille de whisky déjà entamée, et chacun se servit un verre. À peine l'entretien avait commencé que j'entendis du bruit dans la cuisine. Je leur demandai s'ils avaient d'autres locataires dans la maison. Genre leurs femmes, des cousins, des neveux, quelque chose comme ça. Ils me dirent qu'à ce moment précis, on n'était que trois.
« Nos épouses sont en voyage avec les enfants »,
dit Samy. Celle de Scooby-Doo était amant et l'autre à Aboisseau. Quand je demandai qui était dans la cuisine, ils me répondirent presque à l'unisson.
« Mon cher, c'est comme ça les souris nous fatiguent toutes les nuits. »
« Les souris ? M'étonnai-je. »
« Oui, c'est ici qu'elles viennent laver leurs assiettes »,
dit sereinement Scooby-Doo.
« C'est leur heure ça »,
compléta Samy. « Et ça ne vous dérange pas qu'elles viennent comme ça tous les soirs ?»«
Si, si. Mais on va faire comment ?»
répondirent-ils encore ensemble avec un air résigné. « Je suppose que c'est le propriétaire qui vous a dit que ce sont des souris, n'est-ce pas ?»«
Oui, tout à fait. »
répondit Samy.
« Comment tu as su ça ?»«
Comme ça, juste une intuition. Et les portes qui claquent seules, il vous a dit que ce sont les souris aussi ?»«
Non, non, ça ce sont les courants d'air. »
dit Samy.
« Tu sais, il y a du bon vent ici. »
ajouta Scooby-Doo. « Et les pas que j'entends dans le couloir. Il vous a dit que c'était quoi ?»«
Des pas ? Quels pas ?»
demanda Samy. J'avais envie de faire pipi, mais je n'osais pas demander les toilettes. Dans une maison où des souris lavaient des assiettes à 2h du matin, en chantonnant en plus, parce que j'entendais ça aussi. Quelqu'un qui chantait, mais doucement. Mon regard se porta à tout hasard vers la sortie. Je n'arrivais plus à me concentrer. Les deux me racontaient leur vie, mais mon esprit était ailleurs. Samy se leva un moment pour aller chercher de la glace dans la cuisine, mais il revint en courant. Je ne cherchais même pas à comprendre. Je pris mon dictaphone et je descendis de la terrasse en sautant toutes les marches. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Je me tordis légèrement la cheville en atterrissant, mais la priorité, c'était de quitter les lieux, donc je n'y fis pas attention. Scooby-Doo était déjà dehors alors que j'étais certain d'avoir démarré avant lui. Quand on s'arrêta tout essoufflé, on avait couru sur une vingtaine de mètres. Samy tremblait en respirant fort pendant que Scooby-Doo s'appuyait sur lui et demandait.
« Qu'est-ce qui s'est passé, Samy ?»«
Mon frère, ce que j'ai vu là-bas, c'était pas souris. Au nom de Dieu !»
Mais c'était quoi alors ? Il faut parler ?
Insista Scooby-Doo.
Je n'en sais rien, mais ça ne ressemblait pas à souris en tout cas.
Bon, moi je rentre chez moi, coupai-je. On reprendra l'entretien une autre fois et ailleurs. Ils me supplièrent de les héberger pour cette nuit. Il n'était pas question pour eux de passer une nuit de plus dans cette maison qu'ils habitaient depuis seulement une semaine. et moi qui croyais qu'ils étaient là depuis plus longtemps. Sammy se palpa et constata que son téléphone était resté sur la petite table à la terrasse. À la question que je lui posais de savoir s'il n'allait pas le chercher, il me répondit.
Non, ça ira. Demain je m'en achète un autre.
Sammy avait commencé comme boucher au forum d'Adjamé. Il travaillait pour quelqu'un qui ne le payait pas correctement. Il avait alors démissionné, et s'était lancé dans le métier de docker au port. Mais c'était un travail qui n'était pas fait pour lui. Il était beaucoup trop maigre et il s'écroulait très souvent sous le poids de ses charges. Il lui fallait trouver un boulot moins exigeant physiquement, et il avait sollicité l'aide d'un ami pour lancer son commerce de shukuya. Au début, c'était facile. Il arrivait à s'en sortir tout seul. Mais quand il commença à avoir beaucoup de clients, il eut besoin d'un second, d'un assistant, et il fit alors appel à son vieux pote Scooby-Doo qui ne travaillait pas et qui passait son temps à vagabonder avec d'autres chiens. C'était il y a 15 ans. À cette époque, ils avaient aménagé ensemble dans un entrée-couchée à Williamsville. Leur commerce marchait bien, à tel point qu'ils avaient déménagé pour s'installer à Adjamé, dans un appartement plus spacieux. C'est là-bas qu'ils avaient rencontré les femmes qui partagent leur vie aujourd'hui. Sammy s'était marié en premier et Scooby-Doo ensuite, 2 mois après. Ils avaient le même nombre d'enfants. 6 chacun, et ils ne comptaient pas s'arrêter là. À un moment donné, ils avaient été obligés de se séparer pour se prendre chacun une maison. Tout allait bien jusqu'au jour où ils se disputèrent chacun avec son épouse à cause de cette fameuse maison hantée. Elle est si grande qu'elle peut accueillir même 3 familles comme les leurs. Seulement voilà. Les femmes n'étaient pas d'accord pour ça. Vivre tous ensemble dans la même maison. Pour eux, c'était une belle opportunité parce qu'ils ne payaient pas de loyer. Je les trouvais quand même un peu naïfs et bêtes de croire que quelqu'un pouvait leur céder sa maison aussi simplement. Ici, à Abidjan. Une si grande maison qui, en temps normal, pourrait coûter le million par mois. Ils s'y installèrent en se disant que leur femme allait changer d'avis et revenir. Eux qui sont si peureux, je me demande encore comment ils ont fait pour tenir une semaine dans une maison aussi lugubre et pleine de fantômes. Beaucoup de gens disent que les fantômes, ça n'existe pas. En tout cas, moi je n'ai pas attendu d'en avoir un en face de moi pour vérifier ça. Je veux bien entrer dans l'histoire, mais pas en démontrant que les fantômes existent ou n'existent pas. Non merci. Sammy seul sait ce qu'il a vu dans la cuisine. Je ne lui ai pas demandé et je ne tiens même pas à le savoir. Je lui ai juste dit que la prochaine fois qu'on lui dira que des souris font la vaisselle, qu'il fasse l'effort de ne pas croire à ça. Mon retour de voyage fut difficile. Ma dulcinée était folle de rage. Pourtant, je lui avais bien dit que je partais pour 2 jours. Je ne comprenais vraiment pas sa colère. Elle aurait voulu que je fasse un aller-retour le même jour et me faisait une scène de jalousie que je trouvais déplacée. Pour elle, j'en profitais pour faire des escapades avec Mego. Où est-ce qu'elle allait chercher des bêtises pareilles ? Les femmes sont parfois indiscernables quand elles le veulent. Elle n'était jamais allée à Korogo et n'avait donc aucune idée du trajet et de sa durée. C'est pour ça qu'elle réagissait comme ça. Je lui demandais d'avoir le moral, parce que je devais m'absenter encore 2 ou 3 jours pour aller à Meagi, à la rencontre de Gargamel et de ses pires ennemis, les Schtroumpfs. Ceci provoqua un petit palabre et elle me répondit qu'il fallait que moi aussi j'aie le moral. Je me demandais ce qu'elle voulait dire par là, et c'est le soir, à la veille de mon départ que je compris. Elle se mit dans une robe de nuit que je n'avais jamais vue. Une robe hyper sexy. Tellement sexy que ma température corporelle changea en une fraction de seconde. Tout était fait exprès pour me rendre fou. Sa démarche de gazelle. Sa voix devenue soudain plus douce et plus sensuelle que d'habitude. Sa façon de se coucher en me donnant dos et en bougeant langoureusement. Je ne pus me retenir plus longtemps. Je mis un terme à ma conversation sur WhatsApp, et je m'approchai d'elle pour entamer une série de câlins. Au début, elle se laissa faire, et mes caresses gagnaient en intensité quand elle se retourna et me menaça de me donner un coup de poing si je ne la laissais pas tranquille. Je restai bouche ouverte et la regardai sans comprendre. Enfin, disons que je faisais exprès de ne pas comprendre, et c'est d'une voix qui suppliait presque que je me plaignis. « Bébé, tu ne vas pas me laisser comme ça quand même. »«
Si, je vais me gêner. »
répondit-elle en me montrant son poing. « Bébé, je ne te connais pas comme ça. Toi habituellement si douce. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ?»«
Il m'arrive que je ne suis pas contente. » Et arrête de m'appeler bébé s'il te plaît.
Mais je t'ai toujours appelé comme ça. De t'appeler comment maintenant ?
Il ne faut pas m'appeler. Laisse-moi dormir.
J'étais blessée dans mon amour-propre. Ma propre copine. Que j'ai draguée comme il se doit. J'étais obligée maintenant de la manager pour avoir un peu d'intimité avec elle. Dans quel monde vivons-nous ? Pendant près d'une heure, je fis tout pour la raisonner. L'amadouer en lui promettant je ne sais plus trop quoi. Mais rien. Il suffisait que je la touche pour qu'elle tape ma main. Meurtrie jusque dans ma chair, je me résignai voyant qu'il n'y avait rien à faire. « Bon ok, je vais dormir. » Dis-je dans un ultime espoir de l'avoir changé d'avis. Mais c'était mal la connaître.
« Oui c'est ça. Bonne nuit. »
me lança-t-elle sans même se retourner. C'est fou ce que j'ai eu mal cette nuit-là. À 6h du matin, je fus réveillé par 2 choses. Mon réveil qui sonnait tous les jours à la même heure, et les caresses de ma chérie qui étaient collées à moi. Je me mis à sourire intérieurement. C'est là que je l'attendais à mon tour. Elle oubliait que j'étais plus rancunier qu'un chameau. Elle faisait partie de ces femmes qui sont convaincues que le socle d'une excellente journée, c'est une bonne partie de jambes en l'air le matin au réveil. Malgré ces caresses pourtant si délicieuses, je fis tout mon possible pour que le moteur ne démarre pas. Ça ne fut pas facile. Je dois le reconnaître. Excédée, elle souleva le drap et me demanda.
« Qu'est-ce qu'il a ce matin celui-là ? » ?»«
Tu ne sais pas ? Celui-là est encore frustré. » répondis-je en descendant du lit. Une heure après, avant de sortir de la maison, je la pris dans mes bras et lui fis un gros câlin. J'avais 4 heures de route à faire, et je voulais arriver à Miyagi pile à l'heure du déjeuner. « À dans 3 jours, bébé, » dis-je.
« Bon voyage, chérie. »
répondit-elle avec une teinte de tristesse dans sa voix. J'avais raté le départ de 7 heures, et il n'y en avait pas d'autre avant 13 heures. Dut alors. Qu'est-ce que j'allais pouvoir bien faire en attendant ? On était vendredi et il n'y avait que 3 départs pour Miyagi. J'étais surpris parce que j'étais certain que les week-ends, il y avait plus de voyageurs et donc plus de départs. C'est le cas en temps normal, m'expliqua un agent de la société de transport. Mais nous avons 2 cars en panne en ce moment. Je décidai alors de rentrer à la maison pour prendre un bon petit déjeuner et perdre le temps. Puis, une idée folle me vint soudain et j'appelai Laetitia. « Mon amour, bébé, ça te dit de venir avec moi à Miyagi ?»«
Quoi ?»
s'écria-t-elle. « Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de folie ensemble, tu ne trouves pas ?» Elle éclata de rire et me dit qu'elle en serait heureuse, mais qu'elle ne pouvait pas quitter le bureau. « Chérie, fais la malade. Invente quelque chose. Dis par exemple que tu as une migraine terrible. Tes patrons te diront de rentrer à la maison. C'est sûr. »«
D'accord, je vais essayer. »
répondit-elle avec un rire qui traduisait clairement sa joie et sa surprise. Sans même m'assurer que le plan allait marcher, je pris 2 tickets et partis pour la maison. Autour de 11 heures, alors que je regardais la télé, elle arriva et se jeta sur moi toute heureuse. Cette fois-ci, le moteur démarra volontiers, et nous fîmes l'amour au salon, dans la cuisine, dans la chambre. Et puis vers 13h30, nous sortîmes d'Abidjan, blottis l'un contre l'autre à l'arrière du car. Un week-end de rêve en amoureux s'annonçait. Miyagi était une belle petite ville. C'est dans cette localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire où j'avais séjourné quelques années plus tôt avec mon ami Jean-Claude Richard, que j'ai vu combien les peuples ivoiriens et burkinabés cohabitaient dans un climat hautement fraternel. C'était pendant une CAN. Je ne sais plus laquelle des éditions, mais le jour de notre arrivée Jean-Claude et moi, le match à l'affiche, c'était Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La ville était en ébullition. Avant le match, il y avait des parades en mobylette, habillées avec les drapeaux des deux pays. Et sur chaque mobylette, il y avait 2 personnes. Un burkinabé qui tenait le drapeau de la Côte d'Ivoire et un ivoirien avec le drapeau du Burkina. Le match n'avait même pas encore commencé que l'émotion était déjà très forte dans les esprits. Dans le maquis où nous sommes allés suivre le match, l'ambiance était vraiment belle. Bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire qui avait gagné, mais burkinabé comme ivoirien, tout le monde dansait et criait comme pour célébrer une seule et même victoire. Celle de la fraternité. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Nous arrivâmes autour de 17h30. Laetitia avait dormi pendant tout le voyage. Après les formalités de l'hôtel, je passai un coup de fil à Gargamel pour lui dire qu'on était à Miyagi. Nous convînmes de caler le rendez-vous au lendemain à 10h. Chapitre 6. La haine de cet homme pour les Schtroumpfs était vraiment tenace. 30 années pratiquement s'étaient écoulées, et rien n'avait changé dans ses plans de tous les jours. Retrouver le village de ces petits êtres bleus, et les manger tous jusqu'au dernier. Mais comme la victoire revient toujours aux gentils, il n'avait jamais pu faire de mal à un seul Schtroumpf. Il habitait dans une zone retranchée en dehors de la ville, à l'entrée de la forêt. Toujours avec Azrael. Ils étaient devenus vieux tous les deux et ne pouvaient plus courir derrière les Schtroumpfs comme avant. Pendant que certains habitants de Miyagi posaient des pièges pour attraper des agoutis et de gros rats, l'infâme Gargamel, lui, avait infesté la forêt de pièges à Schtroumpf. Nous n'eûmes pas de mal à trouver sa maison. Assis sur une chaise à bascule sous sa véranda, il se balançait nerveusement en fumant une pipe. Il se leva pour nous saluer, mais son esprit était loin. Il nous demanda si on avait par hasard une idée de l'endroit où se trouvait le village des Schtroumpfs. Je répondis que non. « Pourquoi les détestes-tu autant ? » demandai-je.
« Ces petits nabots bleus, je les haïrai jusqu'à la fin de mes jours. »
« Mais pourquoi ?»
insista Laetitia.
« Il n'y a pas de pourquoi. Je les sais tout. »
cria-t-il. Rien que de les évoquer, il enrageait au point où il ne tenait plus en place. Il se leva, et marcha de long en large en marmonnant des choses qu'on ne comprenait pas. « Pardon ?» demandai-je.
« Je vais les attraper. Les découper en petits morceaux. Les écrabouiller et en faire un festin pour Azrael et moi. »
« Oui, mais ça fait des lustres que tu as ça en projet, et tu n'y es jamais arrivé. Continuai-je.
Tu devrais peut-être passer à autre chose.
Suggéra Laetitia.
Jamais, ça va pas non.
Cria-t-il avec des yeux rougis par une telle éventualité. Je fis signe à ma chérie de ne plus lui adresser la parole et de me laisser parler.
Je n'aurai de répit que quand ils seront tous dans ma marmite. D'ailleurs, il est l'heure de passer mes pièges en revue. Venez.
Il nous fit marcher pendant des heures dans la forêt. Les pièges n'avaient rien pris. Il y en avait une cinquantaine à peu près. Furieux, il jeta sa canne par terre et se mit à sauter dessus en hurlant.
Je vous déteste, sale vermine.
J'eus envie de rire, mais je fis de mon mieux pour éviter ça. Je ne voulais surtout pas le vexer et compromettre ma mission. De retour chez lui, il nous annonça qu'il allait finalement mettre à exécution un plan qu'il avait depuis longtemps. Il comptait transformer Azrael en Schtroumpf et l'infiltrer comme espion. Il avait toujours hésité parce qu'il ne maîtrisait pas bien la formule. Une erreur pouvait être fatale pour le chat. Quand il entendit ça, Azrael poussa le cri dont lui seul avait le secret et voulut s'éclipser, mais Gargamel le rattrapa.
« Viens là, espèce de vaurien. Tu es incapable d'attraper un seul Schtroumpf. Voici l'occasion de te rendre utile. »
« Tu crois que c'est une bonne idée ? Je tentais juste de plaider pour le chat. »«
C'est la meilleure qui soit. »
répondit-il l'air vraiment convaincu.
« Si ce plan échoue, je prends définitivement ma retraite. »
Il nous demanda d'attendre dehors. Il tenait à la confidentialité de ses travaux. Au bout d'une heure, on entendit des explosions suivies d'incantations et enfin, le rire sarcastique de Gargamel. Il avait fini. Il ouvrit la porte et nous présenta son chef-d'œuvre qu'il baptisa le Schtroumpf Boucantier. « Pauvre Azrael, me dis-je intérieurement. » Sans perdre de temps, il l'envoya dans la forêt pour qu'il se fasse repérer par les vrais Schtroumpfs. Ce qui ne tarda pas. C'est la Schtroumpfette qui tomba sur lui par hasard et le conduisit au village. Elle commença même à tomber fan de lui. Il attira tout de suite l'attention de tout le monde sur lui à cause de son style de star. Il placarda des affiches partout pour annoncer qu'il donnera un spectacle dans la soirée. Tout le village se rassembla sur la place publique où un grand podium avait été monté pour l'occasion. Le plan de Gargamel fonctionnait parfaitement. Il avait prévu faire irruption dans le village pendant le show et capturer autant de Schtroumpfs que possible. Nous étions cachés dans les buissons à deux pas du village, attendant le moment opportun. Moi, je n'étais pas inquiet pour les petits bonhommes bleus. Mon bébé Titi pareil. C'est comme ça que j'appelais ma chérie. Gargamel avait toujours des plans foireux, et celui-là n'allait certainement pas faire l'exception. Et nous avions bien raison. Le maître de cérémonie, c'était le Schtroumpf à lunettes. C'est devant une foule en liesse qu'il annonça l'arrivée sur scène de l'artiste. Le Schtroumpf Boucantier apparut sous les ovations nourries du public et commença.
Aïe, 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 les gens n'aiment pas les gens. C'est moi le Boucantier, Maxi Maxi Boucan.
Il n'eut pas le temps d'aller plus loin. L'effet de la formule magique commença à s'estomper, et Azrael retrouva peu à peu son aspect de chat. Inutile de vous décrire la débandade qui s'ensuivit. Gargamel était hors de lui. Il ne put même pas attraper un seul Schtroumpf. Il voulait tuer Azrael. Plus tard, il se rendit compte qu'il avait confondu les formules. Il y avait celle de 12 heures, celle de 24 heures et la formule illimitée. C'est cette dernière qu'il devait prononcer et il s'était trompé en disant la première. Il s'en voulait à mort. Il s'insultait lui-même. Se cognait la tête partout. Shootait tout ce qui se trouvait en travers de son chemin. Affalé sur sa chaise à bascule, il me dit.
Mon petit, je crois qu'il est temps que je prenne ma retraite. J'arrête de traquer ces maudits Schtroumpfs.
Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Acquiesçai-je. Le vieux sorcier ne voulait pas se retirer de la scène en toute discrétion. Il décida d'organiser le lendemain même une grande fête qu'il appela « le jubilé de Gargamel ». Tout Miyagi fut informé et convié. Même les Schtroumpfs étaient invités. La fête draina du beau monde en tout cas. Même les sorciers des villages environnants ne voulurent pas se faire compter l'événement. Eux qui s'étaient fâchés contre Gargamel quelque temps avant parce qu'il avait refusé de partager son savoir avec eux. Ils étaient tous là pour lui rendre un vibrant hommage. Titi et moi arrivions à la fête juste au moment où la foule élevait la voix pour demander un discours. Gargamel prit le micro et fit un petit speech.
Chers amis, chers frères et sœurs, chers collègues sorciers, je vous salue. J'ai consacré ma vie à lutter pour le massacre de ces sympathiques bonhommes qu'on appelle les Schtroumpfs. Dieu merci, mes plans ont toujours échoué parce que ce sont des gens bien. J'ai perdu mon temps et mon talent de sorcier en cherchant à leur nuire, alors que j'aurais pu exceller dans d'autres secteurs d'activité comme manger les gens, provoquer les échecs scolaires de nos enfants, empêcher nos frères et sœurs de construire, basser les gens en désordre, et plein d'autres choses plus intéressantes. Maintenant, je suis un vieil homme et je suis fatigué. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, de donner ma vie à Jésus.
Il y eut un tonnerre d'applaudissements d'un côté, et des murmures accompagnés de grognements de l'autre. Au milieu du brouhaha, je pus saisir la réplique de quelqu'un qui disait, « Un bon sorcier comme ça, il va faire Jésus va le gâter. » Il y avait à manger et à boire pour tout le monde. On se demandait, ma chérie et moi, où Gargamel avait sorti l'argent pour recevoir tout ce monde. Pendant qu'on échangeait avec des jeunes du coin, je vis le grand Schtroumpf et Gargamel en train de rire aux éclats en tombant l'un sur l'autre, et se faisant des selfies pendant que d'autres schtroumpfs jouaient avec Azrael. Une belle image que j'aurais chopée volontiers si mon téléphone n'était pas resté à l'hôtel. Le disque jockey enchaînait de belles sélections musicales, et une vue panoramique me permit de voir que tout le monde avait le visage illuminé par un rire ou un simple sourire. L'ambiance était vraiment belle et je voyais Gargamel qui saluait ses invités ça et là. Quelqu'un me prit par le bras comme pour m'arracher à mes pensées, et me tira sur la piste de danse. C'était la Schtroumpfette. Je jetai un coup d'œil derrière moi et vis ma dulcinée qui se laissait aussi entraîner par le Schtroumpf bricoleur. La fête était vraiment lancée, et continua comme ça jusqu'au petit matin. Dès les premières lueurs du jour, les invités qui avaient survécu à cette nuit bien arrosée furent invités à manger un bon plat Kali, ou un Zegen original. Un bon Garba. Je me retrouvai assis près du grand Schtroumpf et j'en profitai pour en savoir un peu sur lui et sa communauté. Il n'y avait pas grand chose à dire sur eux. Ils avaient toujours mené une existence tranquille, enrichie par les attaques de Gargamel qui venaient pimenter leur journée de temps en temps. Il m'avoua qu'il avait un petit pincement au cœur et que tout cela allait lui manquer un peu. Le week-end méhagien fut très enrichissant et chargé d'émotions. Nous arrivâmes à Abidjan autour de 22h le dimanche. J'étais si fatigué par la fête et le voyage que je décidai de faire une petite pause de 3 jours avant de continuer mes consultations. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Kimbo m'appelait tout le temps pour savoir où j'en étais dans le travail. Actarus et Candy s'énervaient et se disaient frustrés parce que je ne les avais pas mis en priorité dans mon planning. Pour les calmer, je dus leur dire que j'avais décidé de garder les meilleurs pour la fin. Ceci les flatta tellement qu'ils me dirent de prendre mon temps finalement. Ils aimaient bien les honneurs ces gens-là. Quand je repris du service, j'appelai d'abord Spectroman pour voir sa disponibilité. Il me répondit qu'il m'attendait depuis longtemps. Il n'était pas très content non plus que j'aie mis tout ce temps pour l'appeler. Il me laissa entendre que le lendemain, il devait aller à des funérailles à Adaou, un petit village de la commune d'Abangourou, et qu'il serait bien qu'on se voie séance tenante. Nous convînmes alors de nous retrouver à la gare de Bassam à Trècheville. C'est son lieu de travail. Comme beaucoup d'autres, il ne voulait pas se déplacer pour venir vers moi. Je ne dis rien. J'appelai juste le président Kimbo pour lui dire que ma facture sera plutôt salée. Parce que tous ces déplacements étaient à ma charge, et rares sont ceux qui me donnaient un petit quelque chose à la fin de mes visites. La gare de Bassam était très animée comme d'habitude. À peine descendu du taxi, je remarquai un attroupement avec des gens qui criaient « Faut le Dja ». Spectroman était au milieu de cette foule en train de tabasser un commerçant sénégalais qui racketait tout le monde pour le compte de Dr Gori. J'intervins aussitôt et réussis à tirer le malheureux des griffes de Spectroman. « Tu me dois la vie », lui dis-je.
« Au nom de bon Dieu, moi-même je connais ça, voilà, c'est le patron qui va te payer ça, Inch'Allah. »
me répondit-il visiblement paniqué. Je fis de mon mieux pour raisonner Spectroman et l'entraîner dans un petit maquis juste à côté. Il était vraiment en colère.
« Ils exagèrent à la fin ces gens-là »,
s'indigna-t-il.
« Déjà qu'on ne gagne rien, on doit partager le peu qu'on a avec eux. Ça veut dire quoi ça ?»«
Qui sont-ils ?» demandai-je comme si je pouvais faire quelque chose.
« C'est ce docteur Gori et sa bande. Si c'est pas les policiers qui nous embêtent sur la route, c'est lui et ses imbéciles de syndicalistes qui viennent nous embrouiller ici chaque matin. »
Il vida rapidement 2 verres de Tchapalo. J'eus un peu peur. Déjà qu'il était fâché, je craignais que ça le rende encore plus violent. Mais cela fit l'effet contraire.
« Ça me permet de me calmer quand je suis sur les nerfs »,
dit-il en rotant un bon coup. « Oui, je vois », répliquai-je en faisant un effort surhumain pour ne pas froisser la mine. J'avais pris toute la puanteur du rot en plein visage. Apparemment, ça ne faisait pas que le calmer. Ça le rendait jovial aussi. Pendant qu'il me parlait de lui, il ingurgita encore une 15aine de verres. Tout ça à mes frais, bien entendu. Cela faisait 23 ans qu'il exerçait le métier de transporteur. Il avait commencé comme chauffeur de Gbaka sur la ligne Adjamé-Yopougon, avant de conduire un gros car de transport qui reliait Abidjan à Samatigila. Ensuite, il s'était retrouvé au volant de son propre Woro Woro sur la ligne Kokodi-Angré. Après un accident grave qui l'avait contraint à un repos prolongé, il avait repris du service en conduisant un Gbaka sur le trajet Abidjan-Bingerville. Aujourd'hui, il avait 8 véhicules 504 sur la ligne Abidjan-Bassam, et il en conduisait un lui-même. Quand je voulus parler de Dr Gori, il me coupa net.
« Pardon, je n'ai pas envie de parler d'un gars soyez comme ça. »
« Pourquoi ?» insistai-je. « Tu avais eu raison de lui pourtant. Tout Abidjan en avait parlé. »«
C'est ce que je croyais. Mais depuis un moment, il est revenu avec un syndicat qu'il a créé juste pour soutirer de l'argent à tous les commerçants du coin. »«
Mais pourquoi tu ne le chasses pas après l'avoir bien frappé ?»«
À mon âge là, tu rigoles. Je ne suis plus le héros que tu as connu mon petit. Mes os ont vieilli. »«
Oui, mais lui aussi il a pris de l'âge. Il n'a plus la vigueur de ses 20 ans non plus. »«
Laisse ça fiston. C'est sur les gens normaux que je peux encore gérer. »
À l'extérieur du maquis, on entendit un remue-ménage. Tout le monde parlait fort et en même temps. Les esprits étaient surchauffés. Nous sortîmes pour voir. C'était Dr Gori en personne qui était à la base de tout ce bruit. Il était venu secourir son agent avec une bande de petits délinquants armés de machettes, de couteaux et de gourdins. C'étaient ces gamins que le monde entier connaissait sous l'appellation de microbes et qui s'étaient tristement illustrés ces dernières années. Spectroman laissa échapper.
Ah, docteur Goriosio.
Je pouvais voir la peur dans ses yeux. Ils étaient venus pour lui demander des explications qui allaient sûrement finir dans le sang. Lui qui avait vaincu les monstres les plus effrayants de la planète, aujourd'hui, son cœur battait devant des enfants de rien du tout. C'est fou ce que l'âge peut parfois nous trahir. Je décidai de prendre le devant des choses, et lui demandai de s'asseoir dans le maquis et de ne pas bouger. J'avais un plan en tête. Je lui demandai seulement de confirmer tout ce que j'allais dire à mon retour. Je me faufilai au milieu de la foule jusqu'à me retrouver en face de ce vieux voyou, moitié homme, moitié singe. « Docteur Gori, je veux dire. Bonjour vieux père, » dis-je avec beaucoup d'humilité.
« Tu es qui toi ?»
questionna-t-il sur un ton plutôt agressif. Un de ces microbes s'approcha et me donna un coup sur la tête en disant
« Éloigne-toi de notre chef. »
Le regard que je lui portais était si lourd qu'il recula tout seul, sans que je ne le touche. J'eus une envie folle de lui faire avaler sa machette, mais je me retins. J'étais là pour arranger les choses. Pas pour tout gâter. « Vieux père, » dis-je en m'adressant à nouveau à Dr. Gori. « C'est moi Coco Joyce. Je suis le président de ton fan club, section engrais. »«
Ah bon ?»
répliqua-t-il en montrant plus d'intérêt. « Oui, on a installé le fan club Dr. Gori dans beaucoup de quartiers d'Abidjan. Actuellement, nous travaillons sur celui d'Abobo qui sera bientôt opérationnel. » Je voudrais te demander juste une faveur.
Oui, je t'écoute mon petit.
Dit-il toujours avec le même intérêt. Je lui fis savoir qu'il y avait beaucoup de bruit dehors et qu'on devrait se retirer dans le maquis pour parler en privé. Pour terminer de le convaincre, je lui soufflai doucement à l'oreille. Il y a plein de bonnes petites dans tous les fan clubs. Il se mit à rire et me passa un bras sur les épaules pendant qu'on rentrait dans le maquis. Il ordonna à ses délinquants de se tenir tranquilles jusqu'à ce qu'ils sortent. Dès qu'il aperçut Spectroman, il s'énerva dans un premier temps et me saisit par les cols. Le temps que je m'en rende compte, mes pieds ne touchaient plus le sol. « Calme-toi vieux père, c'est le président national de ton fan club qui est là.
Quoi » « Quoi ? »
s'écria-t-il en me lâchant. Je fis signe discrètement à Spectroman pour qu'il confirme ce que je disais. L'idée ne lui plaisait pas, mais il n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'il joue le jeu. Dieu merci, je n'eus pas besoin de trop parler pour qu'il comprenne.
« C'est vrai docteur Gori, tu es quelqu'un que j'ai fini par admirer à force de te combattre, et l'idée m'est venue de créer ton fan club. »
« Voilà, vieux père. » « C'est la petite surprise que j'avais pour toi, » dis-je en l'invitant à s'asseoir. Ça lui en bouchait un coin. Spectroman, son ennemi juré, aujourd'hui président de son fan club. Incroyable. Il était si flatté et si ému que Spectroman devint du coup son frère.
« Pourquoi ne m'as-tu rien dit depuis mon cher frère ? Et moi qui en suis arrivé à te détester ?»«
J'ai voulu le faire, »
répondit l'ancien cyborg.
« Mais il faut dire que tu es un homme très occupé, et pour t'avoir ce n'est pas facile. »
« C'est vrai, tu as raison. Mais à partir d'aujourd'hui, je serai disponible pour vous à tout moment. »
Reprit Dr. Gori en nous donnant à chacun une carte de visite. Il nous suggéra d'organiser une rencontre avec l'ensemble des présidents de section, et de le tenir informé pour qu'il soit présent. Il prit aussi nos numéros de téléphone et insista pour que nous gardions le contact. Il plongea ensuite sa main dans une poche de son grand boubou, et sortit une enveloppe kaki qu'il me remit.
« Prenez ça pour boire une bière. »
dit-il en se levant. « Merci boss, » dis-je pour le flatter jusqu'au bout. Il nous donna à chacune une accolade devant les curieux qui s'étaient attroupés à l'entrée du maquis et qui, visiblement, se demandaient ce qu'on avait pu bien se dire. Je jetai un coup d'œil à l'enveloppe. Elle était bien épaisse pour une bière. Il y avait 500 000 francs dedans. Avant qu'on ne soit envahi par les gens, je retirai la moitié que je remis à Spectroman, et nous sortîmes du maquis. Il était à la fois fou de joie et inquiet.
« Comment on va faire maintenant pour cette affaire de fan club ?»
demanda-t-il. « Tu connais championnat ?» demandai-je à mon tour.
« Championnat de quoi ? Ballon ?»
« Non, on va le doubler et le faire espérer. C'est ce qu'on appelle un championnat de haut niveau. Chaque fois qu'il t'appellera, renvoie-le vers moi. » Chapitre 7. Le temps était assez doux en cette fin d'après-midi de samedi. Actarus m'avait donné rendez-vous chez lui à la maison, à Akouedo Village. Je fus impressionné par sa cour. Elle était immense. Juste à l'entrée, il y avait deux maisons encore en chantier. Tout au fond, un grand duplex dominait fièrement le reste des maisons disposées de part et d'autre de la cour. Sur le côté droit, il y avait un hangar peint en bleu. C'est là-bas que Goldorak était garé. Je remarquai la présence de plusieurs femmes qui me saluaient tout au passage avec respect. Pendant un instant, je crus que j'étais dans la cour d'une école primaire parce qu'il y avait des enfants qui jouaient et couraient dans tous les sens. Je m'adressai à une de ces dames pour m'assurer que je me trouvais au bon endroit. Elle me conduisit jusqu'au duplex où Actarus m'attendait dans son salon climatisé, drapé d'un grand panquita et de sandales issues de la pure tradition akan. Il se leva pour me faire à tout. Une accolade. Il était si content de me recevoir chez lui, qu'il sortit une bouteille d'un de ces anciens djinns que les vieux utilisaient à l'époque dans les grandes cérémonies, pour invoquer ou remercier les génies protecteurs. Certains s'en souviendront certainement. La bouteille était verte avec un bouchon blanc. On appelait ça le cercueil dans le temps. Je crois bien. Profitant d'un moment où Actarus s'était levé pour raccompagner un visiteur, je promenais mon regard dans la pièce. En face de moi, il y avait les portraits de 6 femmes accrochées au mur. Il y en a un, en particulier, qui attira mon attention. Je me levai pour bien regarder. Je reçus un choc en reconnaissant Candy. La même Candy. La go d'Archibald.
Ce sont mes femmes.
Dit Actarus juste derrière moi. Quoi ? Tu as épousé 6 femmes ? Demandai-je les yeux écarquillés, et la bouche ouverte. Il éclata de rire.
Oui, tout à fait. Celle que tu es en train de regarder, c'est bien Candy que tu connais. C'est ma première épouse.
J'étais stupéfait. J'avais entendu parler de son mariage il y a plusieurs années de ça, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était Actarus qu'elle allait épouser. Il avait donc réussi à raser les Anthony, les Archibald, les Alistair, les Terry et autres pointeurs de Candy. Même le petit prince des collines n'avait pas pu conquérir le cœur de la jolie blonde aux taches de rousseur. Pas au point de lui passer la bague au doigt en tout cas. Alors toutes les femmes que j'ai vues en arrivant sont tes épouses ?
Oui, chacune a sa maison et vit avec ses enfants.
Et Candy, je ne l'ai pas vue avec les autres.
Mon cher, Candy est partie de la cour ça fait 3 mois maintenant. Quand j'ai pris ma 6e femme. Madame est fâchée. Elle dit que j'exagère alors que moi je ne compte pas m'arrêter là. Il y en a encore 2 qui sont déjà calées, et ça m'en fera 8.
Je fis le rapprochement avec les 2 maisons inachevées que j'avais vues à l'entrée de la cour. Il m'expliqua que les familles de ses prochaines épouses et lui-même avaient convenu de procéder au mariage dès que les maisons seront prêtes. Les formalités étaient déjà faites et il n'attendait plus que ça. Je résolus d'aller voir Candy dès que j'en aurais fini avec Actarus. Quand elle m'avait appelé, elle m'avait dit qu'elle était chez sa cousine à Anyama. Actarus devait toute sa richesse et son titre de notable, oui parce qu'il faisait partie de la chefferie, à ses nombreux exploits. Après sa grande victoire contre le grand stratégaire, souverain de l'Empire de Vega, le méchant qui créait toutes sortes de Golgoth, il avait été accueilli en héros par la population. Il avait eu la possibilité de retourner chez lui à Euphor, mais la planète bleue, la Terre, avait conquis son cœur. Quand il avait rencontré Candy au bord de la lagune Amputo, c'est là-bas qu'elle vivait à l'époque, ça avait été le coup de foudre. C'est l'amour qu'il avait ressenti pour elle qui l'avait définitivement convaincu de rester sur notre planète. Elle lui avait donné 3 enfants avant qu'il ne se décide à l'emmener devant le maire. Il s'était alors installé à Akuedo, dans une petite maison, en attendant qu'une parcelle de terrain lui soit attribuée comme promis par les dignitaires du village. Candy s'était opposé au fait qu'il prenne une 2e épouse, mais avec des arguments solides, il réussit à la convaincre. Chaque fois qu'il envisageait d'en prendre une nouvelle, cela déclenchait un grand palabre. Mais elle finissait par s'y faire parce qu'il lui promettait chaque fois que c'était la dernière. Le lendemain de son 6e mariage, il s'était réveillé avec une femme en moins dans sa cour. Candy avait pris ses affaires et était parti en laissant ses 5 enfants qui sont tous grands déjà, Dieu merci. Pendant que nous échangions, Actarus reçut un appel sur un téléphone assez bizarre. Il y en avait 5 posés devant lui. Un pour ses femmes, un pour ses maîtresses, il en avait malgré ses 6 femmes, un pour la chefferie, un pour le travail et un pour les cas d'urgence. C'est ce dernier qui sonna. À peine avait-il fini de dire allô qu'il se leva brusquement et s'excusa en s'éloignant.
« On me signale des Golgoths au niveau de Nanguyabrogoa. »
dit-il en courant. Je le vis disparaître au bout de la pièce après avoir jeté son pagne et ses sandales. Quelques secondes plus tard, j'entendis « Métamorphose », suivi peu après par « Goldorak Go ». Les connaisseurs sauront le dire avec la bonne intonation. L'énorme robot sortit du hangar en flèche et se jeta dans les bras du ciel. Je sortis aussitôt de la maison et courus à la recherche d'un taxi. Il fallait que je le suive. Vivre un combat de Goldorak en direct, c'est une aubaine. Ça n'arrivait pas tous les jours. À cause des bouchons et autres chauffards qui ne savent rien faire d'autre que de gêner la circulation, j'arrivais quand les hostilités avaient été déjà déclenchées. Le boulevard Nanguyabrogoa, qui habituellement grouillait de monde, était vide. Chacun suivait la bagarre depuis un abri de fortune. Une grande explosion fit trembler le sol, m'obligeant à plonger sur le côté, et à me réfugier derrière un gros camion. Tout le monde put entendre la voix forte d'Actarus qui cria « Transfert », ensuite « Autolargue ». Là encore, les initiés sauront comment prononcer. Le robot se détacha de sa soucoupe et retomba sur ses pieds. Généralement, c'est quand Actarus est vraiment fâché qu'il en arrive là, dans un corps à corps avec le Golgoth du jour. J'assistais pour de vrai à un combat de Goldorak. Comme dans le film. J'étais aux anges même si je n'arrivais pas à le voir en entier. Je cherchais à voir les Golgoths, mais impossible. Le combat était trop violent. Actarus n'y alla pas de main morte avec eux. J'entendais Astéroache, Cornofulgure, Hélicopinche, Rétrolaser, Fulgure au point et plein d'autres cris, et chaque fois, c'était suivi de tremblements et d'explosions. Tout cela me rappelait ce grand fight qu'il avait opposé à Scaravageur, le scarabée ravageur dans le film. C'était pareil. Avec tout ce qu'on entendait, je n'osais même pas imaginer la taille des Golgothes. Après les avoir tués, Goldorak reprit position dans sa soucoupe et s'envola sous les applaudissements des commerçants et de tous ceux qui étaient là. Il y avait des débris partout. Des voitures écrasées. Des magasins détruits. Je cherchais les cadavres des Golgothes, mais il n'y avait rien. Renseignement pris, on me dit que Goldorak s'était défoulé sur des braqueurs qui avaient réussi à prendre la fuite. Il paraît même que pendant qu'ils faisaient tout ce tapage, ils étaient partis depuis fort longtemps. Vu que j'étais à Adjamé, j'en profitais pour passer un coup de fil à Candy pour voir sa disponibilité et prendre un minicar pour me rendre chez elle à Anyama.
« Tu peux venir »,
me dit-elle. Elle m'indiqua où je devais descendre et envoya quelqu'un à ma rencontre. Je la trouvai en train de tresser sa cousine devant la maison. On m'apporta une chaise et de l'eau à boire. Quand je lui dis que je venais de laisser Actarus, elle me répondit par un long chrou. Je ne fus pas très surpris vu que je savais qu'elle n'était pas contente de lui. Elle me parla de lui avec beaucoup de colère dans la voix. Elle le traitait de salaud, d'infidèle, de méchant et de que sais-je encore. Elle disait qu'elle avait renoncé à beaucoup de choses pour lui, qu'elle lui avait tout donné, qu'elle s'était donnée à lui corps et âme.
« Mais monsieur est un éternel insatisfait »,
dit-elle en élevant un peu la voix.
« Non content d'avoir gré toutes mes copines, il a fallu qu'il ajoute une autre femme entre nous. »
Elle avoua malgré tout qu'elle était folle amoureuse de lui et qu'elle comptait regagner son foyer. Je l'encourageai en lui disant qu'elle était son premier amour et qu'elle ne devait pas s'éloigner de lui comme ça. Surtout qu'il s'apprêtait à épouser deux autres femmes. À ces mots, elle poussa la tête de sa cousine et cria.
« Tu dis quoi ?»
Elle piqua une colère qui me fit franchement flipper. Moi qui voulais juste la rassurer et l'exhorter à retourner auprès de son mari, voilà que je venais de mettre de l'huile sur le feu. J'étais pourtant sûr qu'elle était au courant de ces mariages.
« Dès demain je vais le trouver à la maison. Il va me sentir ce pervers-là. »
dit-elle tremblant de colère. « Pardon, oh, je ne t'ai rien dit. Il ne faudra pas dire mon nom là-bas. »
« Fous-moi le camp. Vous êtes tous pareils, vous les hommes. »
Je ne voyais pas le rapport avec moi, mais je continuais de plaider pour la calmer et pour ne pas qu'elle dise à Actarus que c'est moi qui ai vendu la mèche. Je l'avais vu s'acharner sur de simples braqueurs et je ne tenais pas à devenir sa prochaine cible. Peu à peu, elle se calma et je réussis tant bien que mal à ramener un climat décontracté. Je lui jetai des regards furtifs de temps en temps et la détaillai de haut en bas. J'avais devant moi une autre star du club des petits et pas des moindres. En plein dans la quarantaine, Candy semblait beaucoup plus jeune. Il fallait un regard bien appuyé pour voir les petites rides qui parsemaient discrètement son visage. Quand elle se leva pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, je ne pus m'empêcher d'apprécier ses déhanchements. Le mouvement de ses fesses dénonçait clairement l'absence totale de dessous, sous le pagne qu'elle avait attaché. Les cinq maternités qu'elle avait connues n'avaient eu aucun effet dévastateur sur son corps. Si je ne la connaissais pas, je lui aurais donné facilement 30 ans. La nuit était tombée, et je décidai de rentrer sur Abidjan. C'est vrai que le trajet n'était pas du tout long, mais je ne voulais pas non plus rentrer chez moi trop tard. Sa cousine s'indigna et dit
« Tu t'en vas déjà ? Et moi qui voulais t'inviter au bar juste à côté ?»«
Ah bon ? » répondis-je un peu dépassé. J'acceptai en me disant que je pouvais toujours prendre le dernier gbaka vers 23h. Ce n'est pas tous les jours qu'une inconnue m'invite à prendre un pot. Je n'eus pas la force de décliner l'invitation. Elles entrèrent dans la maison pour se maquiller un peu, et 15 minutes plus tard, nous étions dans le bar en train de bavarder et de rigoler devant une bouteille de Johnny Walker. Belle petite ambiance. Quand mon heure arriva, elles insistèrent pour que je reste encore.
« On va te prendre une chambre à l'hôtel, chez notre ami. »
me dit la cousine.
« Oui, c'est bien climatisé et propre. Il ne faut pas casser l'ambiance. »
renchérit Candy. Elles se levèrent et se mirent à danser. Le disque jockey, voyant leur inspiration, improvisa une sélection zouglou à laquelle j'étais loin de m'attendre. Quand j'entendis
« C'est où le balai ? C'est un ours qui chante !»
je sentis un frisson. Comme si j'étais à deux doigts de tomber en transe. Je rejoignis les filles sur la piste de danse. Je suis loin d'être un bon danseur, mais à ce moment-là, face à elles, je libérai en zouglou comme jamais je ne l'avais fait. Vers 1h du matin, alors que mon courant était coupé, une façon de dire que j'étais sous, le DJ annonça l'arrivée de Tonton Zella. Mon ami. Mon jeune frère. Après une forte accolade sous les flashs des paparazzi, je conduisis moi-même l'artiste jusqu'à son salon. J'appréciais sa simplicité et son humilité. Je l'avais connu comme ça quelques années avant, et le succès n'avait rien changé en lui. Il était resté le même Zella. Cette nuit-là, il nous fit danser cadeau. Mon entretien avec Candy s'était transformé en fête finalement. Je finis par m'endormir dans le bar, tant j'étais guinze. Quand j'ouvris les yeux, j'étais couché dans un grand lit. J'étais sûrement dans l'hôtel dont ces femmes m'avaient parlé. J'entendais des voix féminines. C'était leur voix. Les rideaux laissaient passer les premières lueurs du jour.
« Il me plaît. Je veux le grès. »
disait une.
« Toi aussi. Tu aimes trop ça. Tu es marié, je te signale. »
C'était la voix de la cousine.
« Et puis après ?» Mon mari aime bien se taper des petites fraîches. Pourquoi je ne pourrais pas en faire autant avec de petits gars frais ?
Celui-là, c'est pas un petit gars frais. Regarde-le bien. C'est un vieux.
Je gardais les yeux fermés, et je les écoutais. Je me sentais insulté par les propos de la cousine. Moi, vieux, foutaise. Elle parlait comme ça, mais elle voulait de moi aussi. Elles finirent par tomber d'accord.
Il est saoulé. On n'a qu'à le prendre en train.
Dit Candy.
D'accord, j'arrive. Je vais chercher des capotes.
Dit la cousine. Mon cœur battait très fort. Dès que la cousine sortit de la chambre, Candy s'assit sur moi et se mit à me caresser. Je pouvais sentir sa chaleur et son excitation. Mon cœur accéléra. Elle était belle et désirable, mais je ne pouvais pas m'aventurer dans cette voie. Avoir Actarus comme rival, non merci. J'ouvris les yeux et bondis du lit en criant, je fis un scandale si grand que le gérant de l'hôtel vint frapper à la porte. Elle ouvrit et mentit au jeune homme en disant,
laisse, c'est une histoire de famille, c'est entre nous.
Je criai plus fort, mais rien n'y fit. Le gérant repartit en me laissant à nouveau seul avec elle. La cousine revint 10 minutes plus tard avec 4 boîtes de capotes. Je me débattis comme je pouvais, mais elles abusèrent de moi chacune à son tour. Il était 10 heures quand nous sortîmes de l'hôtel. J'étais fatigué, et j'avais faim. Elles m'emmenèrent chez elles et m'offrirent un attiéké poisson, avec du bon piment et une grande bouteille de Fanta. Je trouvais la matinée vraiment spéciale. Je n'étais pas fâché d'avoir été abusé. Bien au contraire. Il y a encore des capotes dans la dernière boîte, non ? Demandai-je.
Ça veut dire quoi ?
Interrogea la cousine. C'est juste pour savoir, répondis-je. Ce n'est pas bon de laisser une boîte de préservatifs à moitié vide, vous savez ?
On a tout utilisé.
Dit Candy. En partant, je l'ai supplié de garder le secret. Je ne tenais pas à ce qu'Actarus soit au courant de notre petite partie d'enjaillement. Elles m'accompagnèrent jusqu'à la grande voie, et juste avant de monter dans le gbaquet qui devait me ramener, la cousine glissa discrètement un bout de papier dans ma poche. C'était son numéro de téléphone. Au milieu du trajet, le silence du gbaquet fut rompu par la sonnerie de mon iPhone 26. C'était Spectroman qui m'appelait un peu affolé.
Coco, Docteur Gori m'a appelé 10 fois. Il dit qu'il n'arrive pas à te joindre depuis hier.
Ah bon ? Pourtant mon téléphone est ouvert ?
Il demande quand est-ce qu'on fera la réunion avec les présidents de fan club.
Ok, calme-toi, je vais l'appeler. Docteur Gori était un peu fâché. Il trouvait qu'on traînait trop pour organiser la fameuse rencontre avec son fan club. Je le rassurai en lui disant que j'avais déjà donné l'information à tous les concernés, et que la réunion était imminente. Ne t'en fais pas mon vieux père, je gère ça.
Ok, je compte sur toi mon bon petit.
Il fallait que je trouve une solution rapidement. 2 jours après, je résolus de l'appeler et nous décidâmes de nous retrouver au même endroit que la première fois, à Trècheville, gare de Bassam. Il était certain que j'allais lui dire que tout était fin prêt pour la réunion. Spectroman était déjà là, et nous attendait. Je le suppliai de ne pas réagir au cas où ça tourne mal. Docteur Gori arriva avec quelques minutes de retard. Je pris un air grave, comme si le ciel venait de me tomber sur la tête.
« Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en fais d'une tête ?»
dit-il après les salutations. « Je n'ai pas de bonnes nouvelles, » dis-je d'une voix qui traduisait le désarroi. « Tu n'as pas suivi les informations ce midi ?»«
Non. Est-ce que moi j'ai le temps de regarder la télé ?»
Le président de la République a fait une déclaration pour dire que désormais, il est formellement interdit de créer des fan clubs, et que tous les fan clubs existants à ce jour sur le territoire ivoirien doivent être considérés comme dissous. À peine j'avais fini ma phrase que je me retrouvais au sol sans comprendre ce qui m'arrivait. Il me fallut quelques secondes pour réaliser qu'il venait de me donner un sérieux coup de poing. Il renversa la table avec tout ce qui était dessus, et bondit sur Spectroman qui se laissa tabasser sans réagir. Je tentai de me sauver, mais il me faucha et je me retrouvai à nouveau par terre. « Est-ce que c'est nous ? » demandai-je, « ce n'est pas nous qui avons décidé ça, c'est le président. »
« Mais pourquoi il décide ça juste au moment où je dois faire connaissance avec mon fan club ? Pourquoi il est mauvais comme ça ? »
cria-t-il en m'envoyant un violent coup de tête python. Je m'étais attendu à un mécontentement de sa part, mais pas à ce point. Pas au point de nous faire passer un sale quart d'heure mon pote et moi. Il faut le dire sans honte, il nous a gogainés et il est parti en pleurant. Il était encore plus vilain quand il pleurait. J'eus envie de rire mais j'avais trop mal à la mâchoire et aux côtes.
« Vraiment Coco, tu as de faux plans quoi ?»
dit Spectroman en m'aidant à me relever. « Ne sois pas un gras vieux père Spectroman. J'ai résolu le problème. Il faut le reconnaître. »
« La prochaine fois, tu seras gentil de me dire ce que tu as en tête avant, et ne plus me mettre devant le fait accompli. »
« D'accord. Mais le problème c'est que j'improvise. »«
Toi, tu es fou. »
dit-il en éclatant de rire. On était sérieusement amochés, mais on était tranquille maintenant. Cette affaire de fan club, c'était fini. Chapitre 8. J'étais au terme de mes investigations et de la rédaction de mon livre consacré aux stars du club des petits. Je tiens, à travers ces quelques lignes, à leur dire un grand merci pour leur disponibilité et l'accueil qu'elles m'ont réservé. Atalaku spécial pour la famille Barbapapa qui m'a honoré avec une fête organisée en mon honneur, ainsi que pour Candy et sa cousine, sans oublier Kita, la sœur de Kimbo. Merci encore. Je sais que je n'ai pas pu rencontrer tout le monde parce qu'il y en a que j'ai sûrement oublié, et d'autres qui ont déjà quitté Abidjan. C'est le cas, par exemple, des joueurs de Harlem Globetrotters qui vivaient à Bassam. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient bagarrés entre eux pour une affaire de femmes, et que chacun avait décidé d'évoluer en solo dans les pays de la sous-région. Il est vrai que ce livre rend hommage aux acteurs du club des petits, mais cela ne nous empêche pas de faire un big up à d'autres anciens qui ont aussi marqué notre enfance. J'en ai rencontré quelques-uns et je vous livre ici la quintessence de leur actualité. Starsky et Hutch. Starsky vit ses vieux jours à Mputo. C'est Candy qui m'a aidé à le retrouver vu qu'elle était sa voisine il y a quelques années, avant qu'elle n'épouse Actarus. Ils avaient même eu une petite aventure, mais c'était sans lendemain parce qu'il était marié à Solange, une femme jalouse et palabreuse à souhait. Celle qui partage encore sa vie aujourd'hui et avec qui il a eu ses 12 enfants. Je me demandais ce qu'ils avaient tous à faire beaucoup d'enfants comme ça. Il avait construit une grande résidence avec des studios meublés qu'il louait pour de courts ou longs séjours. Il était l'actuel chef du village. Hutch, quant à lui, est installé depuis 2 ans à Mbadon où il tient son bar de striptease. Son coin tourne plutôt bien. Il est le seul propriétaire de bar qui déplace chaque semaine des stripteaseuses brésiliennes, marocaines, hindoues, mexicaines, pakistanaises, chinoises et polonaises. Les jours ordinaires, c'est le Mapuka Deja qui est au menu. L'âge lui avait fait perdre sa belle silhouette d'athlète. Il a trop grossi, et avec le ventre qu'il a devant lui, c'est difficile de penser qu'il avait été un grand policier dans le passé. Il vit seul dans sa grande villa parce que sa femme l'a quitté pour aller vivre avec un petit brouteur de Marcory. Ses 3 garçons et ses 2 filles sont tous mariés, et installés chacun et chacune dans son foyer. Lou Grant. Il a démissionné du Los Angeles Tribune il y a déjà 20 ans de ça pour s'installer au Sri Lanka où une belle Sri Lankaise avait fait de lui l'heureux père de 4 enfants. Après son divorce, il était allé vivre à Bagdad avant de se retrouver à Nouakchott où il avait monté Lou Grant News, son propre journal. Aujourd'hui, cet organe de presse est implanté dans 8 capitales africaines et compte parmi les meilleurs du continent. Comme beaucoup de personnes de son âge, Lou Grant n'a pas échappé aux assauts des ans. Il est vieux et fatigué, mais il refuse de se retirer. Il dit toujours qu'il prendra sa retraite quand il cessera de respirer. Sandokan. Le tigre de la Malaisie. Il avait été pirate toute sa vie et il l'est encore aujourd'hui. Il a établi sa nouvelle base à l'île Boulé où il dirige la plus grande horde de pirates jamais vue en Afrique. Malgré ses vieux os, il est toujours en activité et très sollicité pour de nombreuses opérations mercenaires partout en Afrique. Je pensais moi-même, à un moment donné, lui faire appel pour donner une bonne correction au petit Mauritanien qui nous servait de boutiquier dans notre cité. Il n'avait jamais de monnaie ce gars-là. Je m'abstins parce que pour louer les services de Sandokan, il faut avoir les reins solides. Il est trop cher. Même Bob Denard était moins cher, et il faisait souvent crédit aux gens. La famille Carrington de Dynasty. C'est Blake Carrington seulement que j'ai pu rencontrer. Il est devenu révérend et cofondateur de l'église La Dynastie Ardente en Christ, avec le pasteur Stephen Carrington son fils, qui est présentement en croisade d'évangélisation quelque part en Inde. Tous les autres membres de la famille se portent bien aussi. Chacun a créé son église et ils passent leur temps à parcourir le monde pour sauver des âmes. Blake s'est remarié finalement avec Alexis, son ex-femme qu'il détestait tant. Il avait surpris Christelle son épouse d'alors dans les bras de Dex Dexter, ce beau cow-boy charmeur. Il avait demandé le divorce sans hésiter. Nous nous étions rencontrés un dimanche, et il avait tenu à ce que j'assiste à son culte juste avant notre entretien. Ça avait été si intense que je n'avais pas vu passer les 8 heures de prière, de chant, de danse, de prédication, de témoignage et de délivrance. Cet homme avait vraiment l'onction. Il accomplit de nombreux miracles sous mes yeux. Les sourds retrouvaient la vue, les paralytiques retrouvaient l'usage de la parole, les aveugles parlaient. Ce fut un dimanche plein d'émotions pour moi. La joie et la paix se lisaient sur les visages. L'orchestre de l'église formé de jeunes musiciens très talentueux nous fit danser à en perdre le souffle. Par moments, il m'arrivait d'oublier que j'étais dans une église et de me croire à un concert de Kanda Bongo Man ou de Zaiko Langa Langa. Tellement je me laissais emporter par les rythmes endiablés de Ndomolo, de Kwasa Kwasa et autres. Le révérend Blake Carrington et son épouse dansaient mieux et plus que les fidèles. Ils avaient des faces que je n'avais jamais vues de toute ma vie. Au cours de la dernière heure de culte, je me retrouvais à nouveau dans le rang pour une énième quête. C'était la 8e en 8 heures. Mes pauvres 20 000 francs étaient partis dedans sans que je m'en rende compte. Je n'avais même plus d'argent pour mon transport. Mais j'étais tranquille. Le révérend allait sûrement faire le nécessaire pour que je puisse rentrer chez moi. C'était mal le connaître. À la fin du culte, après notre entretien, il fouilla dans ses poches et sortit 3 pièces de 100 francs. « Prends ça mon fils. Et que Dieu t'accompagne, » dit-il en me l'étendant. « 300 francs ? Homme de Dieu vous aussi !» m'exclamai-je. Il me laissa entendre qu'il aurait voulu en faire plus, mais qu'il n'avait plus d'argent sur lui. Avec ça, je pus payer une partie du trajet, et je fis le reste à pied. Il m'appela le lendemain pour prendre de mes nouvelles et pour m'inviter au culte du dimanche suivant. Je lui dis que Jean serait ravi et lui promis d'être là. C'est non qui envoie palabre, a-t-on coutume de dire. Je ne pus m'empêcher de lui répondre intérieurement. Si tu vois mes pieds chez toi encore, il faut les couper. Et je fis suivre ça d'un bon. Sans ça, l'expression ne prend pas tout son sens. Adam Marshall de Génération. Il est devenu FRC. Je l'ai croisé par hasard un soir au kiosque en train de boire un café. Il était de garde ce jour-là. Notre échange fut bref parce que le véhicule de ramassage ne mit pas beaucoup de temps pour passer le prendre. Il put quand même en quelques minutes me donner de ses nouvelles et me parler un peu de certains de ses compagnons de cinéma. Il avait fait partie des mercenaires de Sandokan, mais après plusieurs opérations exécutées avec brio, il avait quitté le groupe parce que Sandokan ne payait pas ses gars. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qui manquait. Comme lui, beaucoup étaient partis de l'île Boulet pour essayer de se trouver un autre job. C'est comme ça qu'il s'était retrouvé dans l'armée. Il avait effectué un nombre incalculable de missions à travers la Côte d'Ivoire. Il avait même rencontré le général de brigade Haddock, le pote de Tintin, lors d'une opération dans la zone de Torogué, ainsi que Tanguy et Laverdure à Korogo. Il me confiait qu'il avait justement joué un grand rôle dans le dénouement de l'affaire qui avait opposé Laverdure à la confrérie des Dozo. Son aventure avec Doreen Jackson s'était soldée par un mariage et la naissance de quatre garçons. Elle n'avait pas aimé l'idée qu'il devienne FRC. C'est pourquoi quand elle l'avait vu en treillis pour la première fois, elle avait demandé le divorce. Elle exerce aujourd'hui comme sage-femme dans un hôpital à Grand Laou. Maya, son amour de jeunesse, vivait maintenant amant avec son mari libanais et ses enfants. Il avait complètement perdu le contact avec les autres. Will, le prince de Bel Air. C'est un artiste de renommée nationale aujourd'hui. Il se produit en spectacle tous les dimanches dans une grande discothèque quelque part à Yopougon. C'est là-bas qu'il m'avait donné rendez-vous quand j'ai demandé à le voir. Ce jour-là, je suis arrivé quand il était déjà sur scène. Je me souviens que c'était un fanat de hip-hop. J'ai été donc un peu surpris de le voir converti en Zouglouman. Je dois reconnaître qu'il n'est vraiment pas mal, surtout en Woyo. Il a une voix faite pour le Zouglou, et une bonne technique de chant qui lui permet d'improviser efficacement. Il avait touché à un peu de tout dans le milieu de la musique. Il y a plusieurs années de cela, il avait fait des featuring avec des noms bien connus comme Dodo La Terre, John Jongos, Guess Bon Sens, Koudouz et Bless, Titus et bien d'autres. Il avait même fait les chœurs de Marilou, la célèbre chanson de Jacques Traboulsi. Quand il a quitté le hip-hop, il s'était lancé à un moment donné, dans le coupé décalé. Mais le championnat était trop fort pour lui. Il avait donc vite renoncé pour se tourner vers le Zouglou où franchement, il excellait. Il me parla brièvement de son cousin Carlton et de ses cousines Ashley et Hilary. Ils se portaient tous bien, même si leur petite famille avait connu de grandes turbulences. En effet, Jeffrey, le majordome, et Hilary étaient tombés fous amoureux l'un de l'autre. Personne ne sait comment c'est arrivé. Monsieur et Madame Banks, les parents de Hilary s'étaient opposés à leur union. Ils avaient donc fui Los Angeles pour se marier en Afrique, et c'est la ville d'Annie Bilécrou qui les avait accueillis. Les parents de Hilary avaient fini par comprendre que leur fille était vraiment amoureuse, et ils avaient accepté la situation. Jeffrey gère maintenant un hôtel, et c'est avec ça qu'il s'occupe de sa famille. Heureusement pour lui, Hilary avait abandonné ses vieilles habitudes de petite bourgeoise et elle le soutenait avec son commerce de dégâts qui marchait plutôt bien. Sa petite sœur Ashley vit maintenant à Bamanda au Cameroun avec son mari et ses enfants. Elle en avait 13 au total. Je n'exagère pas, je vous assure. La famille Ewing de Dallas. Je n'ai pu rencontrer que 4 membres de cette famille. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si leurs puits de pétrole ont séché, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux ont abandonné le Texas pour s'installer en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, et se sont lancés tête baissée dans le commerce de produits vivriers. Le piment et l'oignon sont les spécialités de Bobby Ewing. Son frère JR règne depuis longtemps en maître absolu sur la culture des féculents, taro, igname, manioc et autres. Il est installé actuellement à San Pedro et fait la navette entre cette ville et celle de Boisflay où il a aussi une grande maison. Cela lui permet de mieux suivre ses différentes plantations, surtout sa plantation personnelle d'igname. Il ne mange que ça. Il déteste toujours autant sa belle-sœur Pamela. Son ex-femme Sue Hélène n'est plus alcoolique. Elle s'est remariée à un grand chasseur Koyaka et vit à Sunugubakan, dans la région de Mankono. Ses 2 champs de tomates et de gombo l'occupent beaucoup, et lui rapportent assez d'argent pour soutenir son mari dans les dépenses du foyer. Il y a quelques années de ça, elle conduisait elle-même le camion qui livre ses produits à Abidjan. Aujourd'hui, l'âge l'oblige à confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Pamela, la femme de Bobby avait demandé le divorce 5 ans plus tôt, parce qu'elle s'était laissée emballer par un jeune danseur congolais qu'elle avait vu à l'œuvre lors d'une soirée rumba chez Polo Santa, à Ménécré. Ces jeux de reins pouvaient la rendre folle, que ce soit sur scène ou dans leurs moments les plus intimes. Plus tard, elle comprit qu'il n'y a pas que les prouesses rénales qui donnent un sens à la vie d'un couple. Elle se tapa 6 autres danseurs pour s'en rendre définitivement compte. Elle dut tuer 2 bœufs et un coq blanc pour que Bobby accepte de la reprendre. Il l'avait ensuite aidée à faire ses champs d'aubergines, de carottes et de cola. MacGyver. C'est tout à fait par hasard que je l'ai croisé au plateau, à la gare d'Épinasse. Ces pirogues à moteur qui permettent aux Abidjanais de traverser la lagune ébriée pour vaquer à leurs occupations. Il s'apprêtait à embarquer pour Abobo-Doumé. C'était mon unique chance de parler avec lui. Je passais un bon moment à regarder cette pinasse avant de monter. Je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. C'est vrai que je nage aussi bien qu'un petit poisson, mais je ne tenais pas à le faire au beau milieu de la lagune. Quand tu as vu des films d'horreur comme entre autres Les Dents de la Mer, même le plus paisible des marigots ne te donnera jamais envie de nager. Je n'avais pas vraiment confiance en ces embarcations. Tout le monde avait reconnu MacGyver. C'était quand même une célébrité. Il ne me raconta pas son histoire à moi seul puisque tous les autres passagers avaient les oreilles tendues vers lui. Même le conducteur de la pinasse fit exprès de ralentir pour ne pas qu'on arrive avant la fin de l'histoire. Le bricoleur de génie nous raconta ses dernières aventures et s'arrêta à celle qui l'avait obligé à prendre sa retraite. Il avait été électrocuté par une de ses propres inventions. Un bruit bizarre dans le moteur nous fit tourner la tête vers le conducteur de façon synchronisée. Un deuxième, puis un troisième bruit, et le moteur s'arrêta. Nous étions encore bien loin de notre destination. C'est ça là je ne voulais pas, dis-je presque tout haut. Le commandant de la pinasse tenta plusieurs fois de redémarrer, mais sans succès. Toutes les têtes se tournèrent à nouveau vers MacGyver. On avait tous eu la même pensée apparemment. Il jura qu'il ne touchera jamais à ce moteur. Tout le monde se joignit à moi pour le supplier, mais une heure après, nous étions toujours en train de flotter sur la lagune. Il avait peur de s'approcher du moteur.
« C'est justement en bricolant un truc pareil que j'ai été électrocuté »,
dit-il en détournant le regard.
En plus, il a explosé après. Heureusement, ça n'a tué personne. Juste quelques blessés.
Il y eut des murmures, et l'étonnement se lisait sur les visages. « Il fallait dire ça depuis le début, mon frère », lança quelqu'un. « En tout cas, tu as bien fait de ne même pas essayer », dit un autre. « Dieu t'a inspiré. C'est une autre pinasse qui passait qui nous tira de cette situation alors que la nuit tombait déjà. Je trouvais la vie parfois injuste en regardant notre héros disparaître au milieu de la foule. Un homme qui avait eu tant de succès. Là je l'avais balancé aux oubliettes. Colt. L'homme qui tombe à pic. Il a vraiment vieilli aussi. Je l'ai vu au plateau il y a environ 2 semaines. Il faisait le rang pour toucher sa pension de retraite. Sa jeune femme et tous les enfants qu'il avait eus avec elle l'accompagnaient. Il en avait eu d'autres dans ses anciens mariages, mais ils sont grands maintenant et ils sont en Europe pour certains, et aux États-Unis pour d'autres. Ceux qui l'accompagnaient étaient tous des gamins. Je n'étais pas le seul à me poser la question de savoir pourquoi toute sa petite famille l'accompagnait. Une petite discussion avec des éclats de voix entre lui et son épouse nous donna la réponse. Chaque fois qu'on lui payait sa pension, il finissait plus de la moitié en chemin. Il devait gérer ses 2 maîtresses, boire un pot avec ses gars en jouant au ludo ou encore payer ses crédits. L'argent n'avait donc aucune chance d'arriver intact à la maison. Je trouvais que le moment était mal choisi pour l'approcher et en savoir plus sur lui. Il vit encore et se porte bien, je pense que c'est le plus important. Rick Hunter. Il a quitté la police pour devenir détective privé. D'abord installé à Anumabo, il vit aujourd'hui à Gobelé, vers Atoban. Pour son 4e mariage, l'élu de son cœur n'était autre que son ancienne coéquipière Didi McColl avec qui il a eu 7 enfants, qui leur ont donné une ribambelle de petits-enfants. Elle avait quitté la police bien longtemps avant lui pour s'occuper de son commerce. Elle faisait très souvent la navette entre Dubaï et Abidjan. Rick Hunter n'avait pas eu besoin de trop parler pour la conquérir. Elle était fan de lui depuis bien longtemps. Leur couple avait battu de l'aile quand il avait décidé de se lancer dans le proxénétisme. Il s'était constitué un bon réseau de filles. Toutes les Kpoklé, les Janjou de la rue des Jardins et de l'Ivoire avaient bossé pour lui. Mais sa femme s'était opposée à ce business et avait même menacé de le quitter s'il s'entêtait. Il s'offrait parfois du bon temps avec ses filles et elle le savait. C'est pour ça. Son travail de détective ne payait pas vraiment, mais il avait le minimum pour vivre tranquillement ses vieux jours aux côtés de son épouse. Quang Chang Ken. Je crois que ça veut dire petit scarabée en baoulé. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de celui-là, mais il a marqué aussi l'époque où regarder la télé était un vrai délice. C'était un grand pratiquant de kung-fu qui pouvait frapper tout le monde avec des gestes lents, mais précis. Il l'est toujours d'ailleurs. Enfin, Il l'était encore jusqu'à l'année dernière quand il s'était brisé le poignet en voulant casser une brique. Juste pour impressionner des jeunes filles qui passaient sans même s'occuper de lui. Ses os avaient vieilli aussi. Il faut le dire. Mais malgré ça, il reste dangereux. Je l'ai constaté moi-même quand il a frappé un apprenti de Gbaka sous mes yeux au carrefour du zoo. Le petit ne voulait pas donner sa monnaie. Il était beaucoup trop jeune pour savoir à qui il avait affaire. Cette scène a créé un embouteillage monstre, parce que les autres apprentis et chauffeurs de Gbaka ont garé leur véhicule pour voler au secours du petit malheureux qui n'avait pas raison. Ils étaient une quinzaine contre le vieil homme. Je ne sais vraiment pas par quel pur hasard, mais tous ceux qui étaient là ont pu entendre deux cris dignes d'un bon film karaté. C'était Jackie Chan et Jet Li. Leur cri accoigne. Ce qui veut dire « Occupez-vous des chauffeurs. Je gère les apprentis. » Je traduisis rapidement à haute et intelligible voix pour ceux qui n'avaient aucune notion de chinois. Le coin se vida soudain de ses Gbaka, de ses chauffeurs et de ses apprentis mal élevés. Depuis son véhicule, Petit Madou, le premier chauffeur qui avait pris position, lança à l'endroit de l'apprenti qui venait d'être corrigé.
Ouais, ciao, nous on voulait t'aider, hein. Mais t'as même, tu connais les moraux là, non? Ils vont nous mettre en pain, nous tous. Beau faux pain, c'est mieux.
Il y a encore beaucoup d'autres héros de notre enfance que je n'ai pas pu rencontrer. Ils sont pourtant à Abidjan, mais pour les voir, c'est vraiment difficile. Il s'agit, entre autres, de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Cortex et Minus. Cortex tient toujours à conquérir le monde. Astérix et Obélix. Panoramix, le druide, accepte maintenant de donner sa potion magique à Obélix. C'est ce qui se raconte en ville. La famille de la petite maison dans la prairie. Titi et Gros Minet. Le chat aurait réussi à manger le petit oiseau, mais ce ne sont que des rumeurs infondées. Bip Bip et Coyote. J'ai entendu dire qu'avant de quitter Abidjan, Coyote avait décidé d'attendre que Bip Bip vieillisse pour l'attraper. L'âge aidant, la volaille n'aura plus la force de courir aussi vite. Comme si lui-même, il n'allait pas vieillir aussi. Zambla, Zoro, Simon Templar, Wang Yu, Manimal, Donald, Picsou, Riri, Fifi et Loulou, tous sont actuellement à Abidjan à ce qui paraît. Même celui qui, à ma connaissance, fut le dernier parrain, je parle de Vincent Corleone. Il paraît qu'il vit vers la Pisam maintenant, et il n'est plus le parrain de la famille Corleone. Il aurait cédé sa place à un petit DJ de Kumasi qui se fait appeler Don Pepini. Mais j'en doute, il faudra que je vérifie l'info. Voilà. Chers frères, chères sœurs, je pense que nous avons fait le tour de la plupart de ces personnages qui ont contribué à faire de notre tendre jeunesse une époque inoubliable. Si tu as eu la patience d'écouter cet audio jusqu'ici, c'est que tu appartiens certainement à cette génération qui ne manquera pas d'esquisser même un petit sourire en entendant des noms ou des mots du genre Léonard Grogué, Ivoire Dimanche, Télémiroir, Mickey Mickey, One Leg, Castor, Abidjan City Breakers, Tanti Léo, Bradarus, Marie Konaté, Baba Diara, et bien d'autres. La présentation de ce livre à l'association des anciens du Club des Petits fut un grand succès. Kimbo donna les instructions pour qu'il soit édité au plus vite et 2 semaines après, tout comme toi, beaucoup de nostalgiques abidjanais l'avaient entre les mains et dans les oreilles, et en quelques heures, ils se projetaient 30 ans en arrière et revivaient les plus beaux instants de leur enfance.